Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, c'est la der de la saison. Erwan Cario, bonjour. Programme cette semaine, on va parler de The Sinking City Super Mario Maker 2. Enfin, hein,
oui.
Ça y est, on vient de... je viens de perdre mes oreilles. C'est chaud partout, c'est foutu.
Et... attachez-le.
Et Home Sweet Home, une expérience VR que je n'ai pas du tout envie d'essayer, mais on en parlera en fin d'émission. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Est-ce qu'on refait le mur porteur et le,
et le pilier?
Mais c'est ceux qui ont tenu cette 12e saison en ma compagnie, Patrick Hélio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin, des croissants, mais non, pas des croissants du coup. Bonjour Corentin.
Mario Maker 2.
Ah d'accord, ouais. Oh là là, ça va être compliqué. Bah ouais, c'est toujours un épisode un peu spécial quand même, les derniers épisodes, les dernières de la saison.
Hein. C'est toujours un petit peu larmoyant, mais on va essayer de rester, allez.
Alors moi, c'est
positif.
C'est mitigé, parce qu'il y a aussi une sorte de fierté d'être arrivé au bout. Tu vois, il y a la fierté d'être arrivé au bout d'une saison. Saison quand même bien remplie.
La fierté du fait accompli de la saison. On se retourne et on contemple
dans le rétroviseur.
Abattu, Erwan.
Exactement, Corentin. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est... Alors, d'autant plus que cette saison a été particulièrement remplie. Je trouve qu'il y a eu énormément... Il y a eu très peu d'émissions
de pauses,
ouais,
qui ont sauté. Ouais.
Il y a eu quelques pauses. Il y a eu des entretiens. Pas tellement en fin de saison, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, on va relancer la machine la saison prochaine. Et voilà, donc ça a été vraiment une belle saison et c'est hyper cool, cette 12e saison. Et puis voilà, on commence avec toi Patrick, avec quand même des news. Hein. Allez, il faut la faire cette dernière.
C'est la journée des au revoir, donc on va dire au revoir à The Walking Dead. Hein. On rappelle donc cette fameuse licence mythique hein, déployée à peu près dans tous les formats, séries télé, à la base comics et jeux vidéo. Évidemment, on en a pas mal parlé ces derniers mois avec la sortie de l'ultime épisode de la saison de Telltale. Alors, il se passe pas mal de choses parce qu'à la fois, on a la fin de la série de comics. Kirkman a signé un ultime volume. Donc, ça va être intéressant de voir. J'ai pas eu le temps de regarder encore ce qu'il y avait dedans, comment ça se termine.
C'est sorti, là. C'est pas juste annoncé.
Je crois que c'est sorti. Donc, je suis pas persuadé que la fin soit très heureuse dans cet univers assez sombre.
On sait jamais.
On va voir. Mais en tout cas, bon, c'est...
Tout cela n'était qu'un rêve.
L'auteur donne une fin à cette histoire. Et puis, puis à côté de ça, donc on a aussi du côté jeux vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. Et bien on a l'annonce d'une compilation, une sorte de voilà de total de tout ce qu'a pu être le The Walking Dead de Telltale, avec une définitive collection qui va sortir sur PS4 et Xbox One en septembre. Alors, elle regroupe tout The Walking Dead, donc c'est quand même un gros morceau, hein, puisqu'on
c'est
a les quatre saisons. On a les spin-off Mission, on a les DLC qui avaient été ajoutés aux saisons.
L'épisode qui fait le lien entre la saison 1 et la saison 2
aussi. Exactement, je crois qu'en tout, ça fait plus d'une vingtaine d'épisodes, des épisodes assez longs, hein, on parle de plusieurs heures. Et puis des bonus qui n'ont pas encore été détaillés, mais il y aura des choses, alors j'imagine des artworks, peut-être des making-of, des choses comme ça qui vont venir un peu
le making-of du licenciement de masse, génial. On adore.
Inventer le bah c'est publié par Skybound Games, oui. Donc ça sort donc en digital et aussi en version physique. Ça va être Just for Games qui
c'est
va
la maison d'édition
occuper.
Kirkman,
exactement, qui avait sorti l'ultime saison dont on avait parlé ici de la quatrième, donc l'ultime
qui a permis de finir en fait
post-mortem avec une partie de l'équipe. On en avait parlé amplement à l'époque.
C'est un donc miracle, voilà, ça peut que ça soit sorti quand même.
C'est chouette que ça sorte quelque part, d'avoir une sorte de compilation comme ça totale de ce qu'il y a. C'est un monument quand même du jeu d'aventure, faut le rappeler. Oui. Il y a eu des hauts et des bas, on en a parlé. Il y a eu des saisons moins bonnes que d'autres. La première, elle reste une date dans l'histoire du jeu d'aventure. Elle reste vraiment. Et puis moi, ce que j'en garde avec le temps qui passe, j'en garde vraiment une galerie de personnages. Ouais. Clementine, évidemment, qui reste une figure, qui restera une figure du jeu d'aventure, vraiment, qui va rester, je pense, très, très longtemps, qui va perdurer à tout
Clementine,
ça.
Clementine dans Smash Bros. Allez, on y croit.
Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ça que je vais conserver, c'est une galerie de personnages. Donc j'ai envie de dire, si vous ne les avez pas fait, ça peut être une bonne occasion de se faire un marathon. Alors bon, il faut avoir quand même le moral, parce que c'est quand même d'une noirceur assez marquante et c'est pas forcément très 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 festif, mais il y a des personnages qui restent et même parfois je trouve des personnages qui sont plus forts que notamment la série télé. Moi je trouve que la série télé au fil du temps, moi j'ai plus ou moins décroché, j'y suis revenu avec du mal, mais je trouve qu'il y a des moments. Je trouve que dans les jeux, ils ont vraiment réussi à créer des personnages qui restent et avec des relations entre eux qui sont intéressantes. Donc
Kenny.
Voilà, en tout cas, c'est, oui, mais clairement,
Kenny,
je suis d'accord.
Lee,
mais je suis d'accord, Kenny, il est excellent. Ouais. Et donc voilà, c'était pour dire cette compilation septembre, c'est peut-être un bon moment, un bon moyen si vous l'avez loupé. Et puis une petite news aussi, moi qui m'a fait tilt, qui est passée il y a quelques dans la semaine là, c'est l'annonce de Remedy qui aurait remis la main sur les droits d'exploitation de Alan Wake. Alors rappelez-vous Alan Wake, c'était ce jeu horrifique très 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 marqué Stephen King, hein, dans l'ambiance avec ce personnage. Alors Alan Wake, il est critiquable, hein, le jeu, il a pris un petit coup de vieux.
Même quand il est sorti, il avait pris un coup de vieux. Un jeu.
Ouais, mais effectivement, parce que en fait, c'est un projet qui a été beaucoup retaillé. Moi, je me rappelle encore avoir vu. On va peut-être en reparler tout à l'heure sur un autre jeu qui nous intéresse aujourd'hui. C'était moi quand j'avais vu les premières maquettes et je crois que le premier postulat, c'était un open world d'enquête avec justement une sorte de relecture des univers de Stephen King en monde ouvert où on pourrait faire son enquête, etc. Le jeu a été retaillé en tous les sens et finalement ce qui en restait, manette en main, c'était assez décevant.
C'était un shooter assez basique avec une gestion des ombres lumières
un gameplay basique et qui n'était pas du tout à la hauteur de l'univers, parce qu'il y avait un cachet, il y avait une narration, et ça c'est aussi, ça a toujours été la force de Remedy. On se rappelle de Max Payne, c'est-à-dire que, mais à part que Max Payne, tu avais un gameplay il y avait une jouissance dans le gameplay très spéciale et qu'on retrouvait pas dans Alan Wake. En tout cas, juste pour dire, ce qui est intéressant, c'est que Remedy, on rappelle, il y a une actualité fin août, ils sortent Control, j'espère qu'on en parlera à la rentrée, qui a l'air de bien se présenter. Moi, c'est vrai que j'avais été vachement refroidi par Quantum Break, hein, l'exclu Xbox, on en avait parlé, avec ces passages de full motion vidéo, plaisir coupable, hein, de ma part, mais qui fonctionnait pas, le mariage, le métissage full motion vidéo, trop long, et le jeu, ça marchait pas. Là, a priori, Control, ça a l'air de bien se présenter, donc moi, je suis toujours curieux de ce que fait ce studio, qui est toujours à la limite entre l'inspiration cinéma et du gameplay. Max Payne, c'était la meilleure incarnation de ça. En tout cas, Alan Wake, ils ont repris les droits, ils avaient les droits intellectuels, mais je crois qu'ils avaient pas les droits d'exploitation. Là, en tout cas, ils l'ont repris, peut-être une suite, ou ce qui a été dit à mots comme ça couverts, ça peut être une adaptation du Alan Wake sur d'autres machines. On parle notamment de la PS4. Et puis, comme par hasard, on parlait aussi depuis quelques jours d'un rapprochement, peut-être, entre Remedy et Sony. C'était une grosse rumeur. Je pense que Remedy, ils ont plus une optique multiplateforme aujourd'hui. Hein.
Ils étaient maqués avec Xbox avant.
Ils étaient maqués sur Quantum Break. Là, a priori, bon, il y aurait des rumeurs. Mais en tout cas, Alan Wake, on va peut-être en entendre parler.
Yep.
Ça pourrait être... peut-être qu'on va enfin voir un jour arriver le Alan Wake dont on rêvait au tout début.
Corentin. Voilà.
Ben dans le registre, Valve fait n'importe quoi et les indés prennent cher. Hein, et bien, on a les nouvelles soldes Steam là qui sont en cours actuellement jusqu'au 9 juillet.
C'est la période.
C'est la période. Donc, si vous voulez vous faire plaisir à petit prix, n'hésitez pas. Mais du coup, soldes Steam avec, il y a toujours, vous savez, quand il y a les soldes Steam, il y a souvent une opération, jeu, un truc.
Des thématiques ou
une thématique, voilà,
ça,
des cartes à récupérer, voilà. Mmh. Là, cette année, enfin, sur ces soldes là, c'est le thème du Grand Prix,
une
course automobile, quoi, genre un 24 heures du Mans, dans lequel on choisit une écurie et en fait on doit remplir des petites missions en jeu, je crois, sur certains jeux pour apporter des points à ton écurie. C'est un peu comme des succès qui rapportent des points globaux. Et à la fin, si ton écurie gagne, il y a des joueurs qui sont tirés au sort parmi cette écurie et ils peuvent gagner des jeux de leur wishlist. Gratuitement, c'est-à-dire que vraiment ils payent pas pour le jeu en haut de leur wishlist en fait. Mm-hmm. Sauf que ce truc-là est extrêmement mal expliqué. Moi, je suis arrivé, j'ai même pas envie de me casser la tête avec ce truc-là. Et
c'est vrai, tu as raison, je suis tombé sur la page et j'ai pas compris. En fait, j'ai cliqué pour en sortir parce que je suis d'accord avec toi, complètement.
C'est vraiment compliqué.
Pas clair.
Moi, j'ai acheté Full Throttle, là, qui était pas cher.
Ça a me rappelé
des souvenirs parce que c'est un jeu de mon enfance.
Ah bah,
et là,
il
m'a dit, participe au Grand Prix. Alors, je vais regarder, puis je comprends rien. Et du coup, le point de difficulté sur ce Grand Prix.
Un jeu de ton enfance. Non, je suis resté dessus. Mais non, mais c'est très bien.
Désolé.
Non, mais t'as raison, c'est la réalité, c'est comme ça. Ouais. Voilà.
Et du coup, l'un des problèmes, le gros problème de ce Grand Prix, donc outre le fait que ce soit très mal expliqué, mais ça à la rigueur, il y a déjà eu d'autres événements mal expliqués, c'est que c'est ce point, c'est-à-dire un jeu de votre wishlist qui vous sera offert. C'était précisé dans un coin des règles que ça serait le premier jeu de la wishlist qui serait offert à des joueurs sélectionnés parmi l'écurie gagnante. Sauf que la plupart des joueurs, la grande majorité des joueurs, n'ont pas compris ça. Peut-être pas la grande majorité, mais en tout cas un nombre conséquent de joueurs n'ont pas compris ça et se sont mis à vider leur wishlist pour ne laisser
que celui qui
que
voulait, en fait.
Les gros jeux onéreux, donc les jeux indés, souvent ils passaient à la trappe pour un triple A qu'ils n'ont pas acheté et qu'ils auraient bien voulu se faire offrir si d'aventure ils gagnaient le Grand Prix. C'est un problème pour les indépendants qui s'en sont rendus compte la semaine dernière. Des indés ont même contacté pour me dire est-ce que tu peux en parler quelque part et tout ça. Donc c'est pour ça que ça a attiré mon attention, mais toute la presse en a repris derrière. Parce qu'en fait, la wishlist est importante dans l'écosystème Steam, puisque les jeux que vous voyez sur la home, les jeux qui sont sélectionnés par l'algorithme pour être mis en avant, eh bien, c'est notamment et en grande partie sur la base des jeux mis en wishlist. C'est-à-dire, plus un jeu sera mis en wishlist et plus il aura de chances d'apparaître sur la home. C'est pour ça que les développeurs indépendants, très souvent, ils sortent leur page Steam bien avant que leur jeu sorte pour dire mettez-moi en wishlist, comme ça, le jour où je sors, j'ai plus de chances d'être mis sur la devanture de Steam. Et comme Steam représente une immense part, voire même la quasi-totalité des ventes sur PC, c'est indispensable.
Il y a Epic maintenant.
Non mais voilà, on va y arriver. Ouais. Mais grosso modo, beaucoup de développeurs ont partagé leurs chiffres pour montrer. Voilà le nombre de, parce qu'ils ont les stats, les développeurs. Voilà le nombre de suppressions des wishlists de mon jeu et voici les créations. Et on voit que genre il y a deux fois plus de suppressions que de créations. Donc là il y a plein de jeux indépendants qui ont pris un énorme coup.
C'est terrible comme logique.
Alors Valve s'est excusé immédiatement en mode on désolé.
Bon, déjà,
c'est de notre faute. On n'a vraiment pas vu ça venir. On s'est très mal débrouillé. On a très mal expliqué. Ils ont poussé plein de messages. Ils ont changé les textes. Ils ont envoyé des
pics derrière avec un grand sourire qui attend.
C'est exactement ça. Ils ont envoyé des tweets où ils ont montré avec des gifs pour comment déplacer les objets de la wishlist dans la wishlist pour les mettre en premier.
Avant,
exactement.
Moment,
mais c'est toujours pareil avec Valve. Ils y vont comme ça.
Et après on voit quoi.
Voilà. Et après on voit.
Ils sont plus tout seuls maintenant. Attention.
Le problème, c'est que Steam prend tellement de place, ils ont une place tellement monopolistique sur le marché, moins maintenant, mais que la moindre mauvaise décision peut avoir un impact sur tout un pan, toute une scène indépendante. Ouais. Et c'est
sur
un vrai problème.
Okay, sur des gens, quoi.
C'est pour ça qu'à titre personnel, le fait de voir Epic, alors pas Epic en particulier, mais le fait de voir un autre acteur mettre de l'argent, essayer de s'incruster, offrir une alternative.
On applaudit.
Bah, je trouve que c'est une bonne chose dans les faits.
C'est sain d'avoir une concurrence.
Pour tout le monde.
Parce que avoir le choix pour les studios, pour les joueurs.
Voilà. Parce que dans le cas, si on avait deux ou trois acteurs comme ça, de la taille d'un Valve sur le marché, et qu'un de ces trois acteurs fait une connerie de ce style, ce qui est une connerie, Valve lui-même l'a reconnu, bah, au moins, ils ont encore deux tiers de leurs ventes qui n'ont pas d'impact, qui ne prennent pas, un coup.
Parce qu'on rigole comme ça, mais aujourd'hui, ils piquent, ça reste tout petit.
C'est encore
ça reste
pas énorme.
Minuscule. Mais là, ils investissent pour les indés.
Donc, désolé. Je sais qu'il y a des joueurs qui râlent parce que ça les saoule d'aller sur Epic, d'ouvrir plusieurs launchers. Moi aussi, ça me saoule d'ouvrir Origin quand je veux lancer Apex. Ça me saoule de lancer Epic pour.
Tu continues à jouer à Apex ?
De temps en temps.
Alors je suis pas d'accord, moi, tu vois, j'ai GOG toujours.
J'ai GOG Galaxy.
Et je regarde les prix aussi quand je vais acheter un jeu. Bah, je regarde toujours, je fais le tour, je regarde le prix du jeu, là où il est, etc. C'est aussi un pouvoir pour le joueur, pour le conso, de aller.
Regardez tous les jeux qu'on nous offre là, tour de bras sur Epic Store. D'un point de vue consommateur, ça peut être que bon, et d'un point de vue développeur, c'est aussi bon, quoi. C'était encore une fois une circonstance qui montre que la situation de monopole de Valve n'est pas une bonne chose, et le fait qu'un autre acteur arrive, à mon avis, ça va assainir tout ça. Une deuxième news, plus gay cette fois, la SGDQ 2019 qui s'est tenue du 23 au 30 juin dernier. C'était chouette, Erwan, c'était super chouette. Alors je rappelle, un caraton maritatif. Est-ce que vous connaissez le caraton maritatif ? C'est nouveau, c'est un concept, je viens de l'inventer. Donc marathon caritatif, bien entendu, où des speedrunners se relaient pour finir un max de jeux en une semaine et récolter de l'argent. L'hiver, c'est pour Prevent Cancer Foundation. Et l'été, c'est, et là on est l'été, donc elle est que pour Summer Games Done Quick, c'est pour Médecins Sans Frontières US. Et c'est rare, mais la SGDQ a battu le record total des GDQ. C'est-à-dire que là, c'était la GDQ qui est quand même l'événement principal, et la SGDQ est plutôt l'événement secondaire. Mais là, ils ont récolté 3 millions de dollars en une semaine contre donc, le précédent record. C'était la GDQ 2019, donc il y a 6 mois, même pas, où ils ont récolté 2,4 millions de dollars seulement, entre guillemets. Et ça marche toujours aussi bien. La production est toujours aussi bonne. C'est toujours aussi bien organisé. Il y a des interviews. Il y a plein de gimmicks qui se mettent en place. Des petits mèmes très bon enfant. C'est vraiment agréable. T'as vraiment l'impression d'être avec une bande de potes qui finissent des jeux très rapidement pour toi. Il y a du spectacle, tu découvres des jeux, tu découvres des speedruns. Moi, j'adore regarder des speedruns, et c'est vrai que je découvre des nouveaux speedruns à chaque fois que je regarde la GDQ. Et la GDQ d'ailleurs. Et du coup, c'est toujours un plaisir. Alors, je vous ai quand même donné, j'ai fait une petite liste, 5 speedruns que j'ai pu voir pendant ces SGDQ et que j'ai trouvé sympa à regarder. Je commencerai par Pokémon Crystal Glitchless Any%. Donc, Pokémon, c'est troué comme du gruyère. Donc, si tu fais des glitches, tu peux le finir en 20 minutes. Donc là, c'est sans les glitches, donc plutôt en 3 heures. Pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce qu'est une run à GDQ, c'est-à-dire longue, où ils pètent tous des câbles au bout d'un moment, où le public rentre dans des délires et tout ça. C'est vraiment chouette. Et là, la run était un peu catastrophique. Enfin, il y avait plein de trucs qui s'est mal passé. Du coup, tout le monde s'est marré. Enfin, c'était vraiment rigolo. The Minish Cap Any%, donc le Zelda GBA, que moi, je connaissais pas en speedrun. Donc là, j'ai pu découvrir. C'était plutôt sympa. Quelques glitches, des bonnes astuces. C'est plutôt cool. Un que j'ai découvert aussi, Minecraft, c'est Any%, donc allumer le jeu.
C'est quoi ?
Minecraft. Any%, ah oui, pardon, Any%, ça veut dire tu finis le jeu.
Non, mais le Any%, mais tu finis Minecraft ?
Oui, absolument. Tu vas finir. Alors, finir Minecraft, c'est arriver au crédit. Et pour arriver au crédit, il faut aller tuer l'Ender Dragon.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà,
oui,
simplement. Donc, voilà, du lancement du jeu jusqu'à l'Ender Dragon. Donc, on passe, il faut récolter de l'obsidiane, aller dans les Nether et tout ça.
Ça prend du temps, non ?
Ça prend du temps, ça prend de l'âge. Non, ça va 20, non 30 minutes, je crois, un truc comme ça. 40 minutes. Je crois qu'il a mis 40, 50 minutes, je crois. Wow. Mais le record du monde est à 20 minutes, je crois. Mais après, c'est un jeu qui est tellement dépendant de la chance.
Bah oui, c'est ça, voilà. Parce que c'est ton monde généré. Si tu trouves de l'obsidienne, si tu en trouves pas, c'est...
Bah là, c'est super. Il a trouvé un coffre, il y avait le nombre d'obsidienne pour faire une porte dedans. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Et du coup, c'est des petites épiphanies de chance. Mais il montre aussi comment optimiser sa chance. Il y a plein de trucs sympas. Il y a aussi du TAS, donc le Tool Assisted Speedrun. Donc là, c'est un ordinateur qui joue. Et là, on cherche à déterminer les limites théoriques de la vitesse où on peut finir un jeu. Et là, c'était du Céleste. Enfin, il y a eu plusieurs jeux, mais celui que j'ai retenu, c'était Céleste que j'ai pu voir. All the Strawberries, donc toutes les fraises rouges.
C'est étonnant, c'est mécanique. Moi, je trouve quelque part, c'est démonter le jeu. C'est le pervertir, c'est rentrer dedans.
Donc là, c'est quoi ? C'est une machine qui a fini Céleste ?
En fait, il faut imaginer un ordre de barbarie, c'est-à-dire que quelqu'un va écrire dans un fichier texte toutes les inputs à mettre à toutes les frames. Et on essaie de voir théoriquement à quelle vitesse on peut finir le jeu de manière théorique. Ça sera impossible à faire pour un humain.
Oui.
Mais
c'est pas d'erreur. C'est scripté quoi.
C'est scripté, totalement scripté.
Et donc, c'est pas une intelligence artificielle, un truc.
Voilà. Et donc ça permet de voir des bugs hallucinants. D'ailleurs, il y a des, il y a toujours un échange entre la communauté TAS d'un jeu et la communauté speedrun classique d'un jeu, parce que les gens qui font un Tool Assisted Speedrun, ils vont découvrir des glitches qu'ils vont essayer de transmettre aux speedrunners, qui vont essayer de les mettre en application. Les speedrunners, par l'expérimentation, ils vont découvrir aussi des trucs qu'ils vont transmettre aux TASseurs. Ah non, mais c'est formidable. Le TAS, c'est particulièrement intéressant.
C'est fascinant. Moi, j'aime bien aussi que les jeux conservent un peu de mystère. Tu vois, j'aime bien qu'un jeu. Après, je peux comprendre complètement l'intérêt et le côté fascinant de rentrer comme ça dans le code et de le retravailler. Moi, j'aime bien qu'un jeu garde une part de mystère quand je l'ai fini. Je le laisse reposer.
On découvre tellement de choses, notamment comment le jeu fonctionne, comment il a été programmé.
Bien sûr.
Je crois qu'un des jeux les plus décortiqués aujourd'hui, ça doit être Mario 64, avec un compte YouTube qui s'appelle Pancake. Enfin, c'est très compliqué à écrire. Mais grosso modo, son but, c'est de finir Mario 64 sans sauter une seule fois, sans appuyer sur A une seule fois.
Sans sauter une seule fois.
Donc, c'est compliqué parce qu'il faut passer par des bugs hallucinants. Et en fait, il fait des petites vidéos où il t'explique le fonctionnement de Mario 64, comment il gère la mémoire, comment il gère les valeurs. Il y a plein de conséquences physiques qui sont visibles dans le jeu, qui sont hallucinantes. Et donc, son but, et je pense pas qu'il y arrivera, mais là, je crois qu'il est réduit à 8 sauts, un truc comme ça. C'est bien. Et pour les 120 étoiles, il veut avoir les 120 étoiles sans
sauter. Bien sûr.
Et le dernier, à mon avis, Arwan, il va te retourner le cerveau. Je te conseille ce speedrun parce que ça va t'intéresser. Alors, tenez-vous bien parce que le nom est imbitable. A Link to the Past plus Super Metroid combo randomizer en coop. Alors, on imagine. En fait, ils se sont rendus compte que A Link to the Past et Super Metroid utilisaient grosso modo les mêmes zones de mémoire de la console.
Non,
et donc en fait, ils ont réussi à mettre les deux jeux dans un seul jeu.
Ce qui fait que quand tu allumes
la console, tu joues à Super Metroid, tu rentres dans une porte et paf, c'est A Link to the Past.
Mais c'est les deux codes de jeu qui se télescope, c'est ça?
Ouais, en fait, c'est un hack. C'est les mecs, ils ont hacké les deux jeux ensemble.
Sauf qu'il y a des objets dans l'un qui se retrouvent dans l'autre.
Exactement. Les pools d'objets sont complètement mélangés d'un jeu à l'autre. Et donc, le but, c'est de finir les deux jeux le plus vite possible. Seulement, le pool d'objets est tellement immense que. Et donc, tu vas dans Zelda, et comme c'est randomisé, donc tous les objets sont dispersés dans les coffres. Et le but, c'est de finir le jeu le plus vite possible.
Incroyable.
Et donc, c'est en coop, parce que c'est tellement immense que là, ils ont décidé de faire une coop pour aller plus vite. Et même en coop, donc, ils partager des informations. Oui, j'ai trouvé des bombes de puissance, donc un objet de Metroid dans le coffre de tel donjon dans Zelda. Donc vas-y, va les chercher.
Incroyable.
Et même à deux, donc en se partageant les informations, ils ont quand même mis 3 heures pour finir. Donc c'est fait un peu moins de 3 heures, je crois 2h30 dans ces eaux-là. Donc c'est quand même long, mais c'est passionnant. Je connaissais pas ils sont ce truc-là. Je vais m'y intéresser quoi. Donc voilà, je vous recommande. Et c'était vers la fin, donc je vous recommande cette run-là qui est passionnante. Et de manière générale, je vous conseille de regarder donc la GDQ qui aura lieu début d'année prochaine, la GDQ 2020. Voilà.
Le com des coms de la semaine dernière. Les forums sont revenus. Hier soir, ils étaient plantés.
Bref,
j'ai rien fait. Je me suis dit, je vais rien faire. Ça se trouve, ça va revenir. Normalement, je reboot. c'était donc surtout Cadence of Hyrule qui a fait parler avec Twen qui dit j'ai acheté Cadence of Hyrule le jour de la sortie. J'avais adoré la bande-annonce et surtout la musique. Par contre, je n'avais jamais joué à Crypt of the Necrodancer. Je me lance dans le jeu, je joue Link, je sors de la maison sur le premier écran où il y a plusieurs ennemis, je meurs. Je recommence, je nettoie un écran avec plusieurs ennemis, je rentre dans une grotte et je meurs. Je prends un autre chemin au sud de la maison, je me retrouve dans l'eau avec des ennemis qui me lancent des boules et je meurs. Bref, notre ami n'y est jamais retourné et quand j'ai entendu Erwan parler du jeu, je me suis tellement reconnu qu'il fallait que j'en parle. On n'est pas seul. Mais évidemment, ça c'est le côté un peu nul de jeu de rythme. Sauf qu'il nous dit aussi que c'était son premier commentaire à Twen dans les forums. Par contre, derrière, je me suis acheté Vectronom, qui n'est pas si loin de ça, et je l'adore. Allez savoir pourquoi.
Mais moi, je sais pourquoi. Parce qu'encore une fois, Cadence of Hyrule n'est pas un jeu de rythme.
C'est ça.
Pour moi, c'est un jeu de placement, c'est un jeu de.
Voilà, mais
c'est un jeu d'échec en temps réel, en fait.
Ça m'a fait penser à ça, en fait. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus effectivement un jeu de placement, finalement très proche des Zelda et des Binding of Isaac ou ce genre de choses. Sauf que tu rajoutes une composante de tempo, en fait,
une contrainte
de tempo. Donc, je pense que moi, qui suis pas très très bon sur les jeux de placement, et en plus avec la contrainte de tempo, c'est vrai que je pense que ça vient de là. Kirby qui nous dit j'avais passé un peu de temps sur Crypt of the Necrodancer. Hunter qui était franchement dur. J'avais passé le premier donjon, mais après ça devenait bien hardcore. Je l'ai fait et le fait que j'ai zéro rythme, n'aide pas. Mais Cadence of Hyrule est quand même vachement plus abordable. Il y a clairement un ticket d'entrée pour comprendre le principe du jeu et les patterns des ennemis. Mais moi, c'est passé assez vite. Et une fois qu'on a récupéré quelques armes et des cœurs, ça devient beaucoup plus abordable et limite plus très compliqué. Il y a certaines combinaisons, comme la lance à 2 dégâts, qui sont bien pétées. Et une fois qu'on les a acquis, le jeu n'offre plus beaucoup de challenge. C'est un peu le reproche que je lui ferais, cette courbe de difficulté, avec un effet de marche assez brutal. L'autre reproche, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'objets qui sont bien gadgets et que le jeu ne pousse pas beaucoup à les utiliser.
C'est absolument vrai, ça.
C'est dommage, mais sinon, la digestion de l'univers Zelda est parfaite, le mariage des deux mondes est très 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 réussi et les musiques en particulier sont fantastiques, un très bon moment pour moi. Enfin, Oyoyo qui nous dit « Je ferai Cadence of Hyrule, j'ai plein d'autres jeux à faire avant, en revanche je n'ai pas attendu pour me jeter sur la bande originale. Oui, vous l'avez dit, mais pas assez, elle est incroyable. Cette fusion tellement naturelle entre ce thème légendaire de Zelda et le punch des thèmes originaux de Crypt of the Necromancer, moi, elle me colle la chair de poule. »
Ah, elle est ouf, l'OST, je l'écoute en bossant maintenant.
enfin, quand même, pour terminer ce com des com, j'ai posé hier sur Twitter, qu'est-ce que vous avez préféré la saison passée et qu'est-ce que vous attendez pour la saison à venir. Beaucoup de super commentaires, je vais évidemment passer sur tous les gens qui nous ont dit que la saison était formidable, merci beaucoup.
Non, mais
des fois on en a besoin, tu sais, c'est une question de nourriture d'ego. Bref, quelques remarques auxquelles on va répondre rapidement. Il y a quelqu'un qui nous demande quand est-ce que vous arrivez sur Deezer. Ben oui, parce qu'en fait on est sur Spotify. Alors moi je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on fait pour débarquer sur Deezer, mais je vais regarder. On nous demande évidemment d'avoir des chroniqueuses plus souvent. On va avoir des chroniqueuses plus souvent. C'est un vrai plaisir d'avoir eu Camille dans de nombreux épisodes cette saison et j'espère que ce sera encore
revenir.
Mais évidemment, ce sera le cas la saison prochaine. On ne demande que ça.
Elle aurait voulu être là aujourd'hui, elle ne pouvait pas.
Et Elodie Drouard aussi de France Info. J'espère qu'elle reviendra. Enfin voilà, on essaye de travailler sur ce point-là. Des émissions plus longues, non, hein, parce que il y en a d'autres, des podcasts d'émissions plus longues, si vous en cherchez. Il y a plein de podcasts jeux vidéo qui durent 3 heures ou plus.
Peut-être QSD, ça dure longtemps.
C'est ça. Évidemment, ce fail de la saison 12 sur les émissions en public, hein, ça, il faut le signaler. C'est, désolé.
Oui, c'est vrai.
J'avais commencé à bosser, on avait des pistes, j'avais commencé à discuter avec des gens, et puis y a aussi le quotidien, il y a aussi le reste du travail qui compte, et c'est compliqué à organiser. Peut-être il faut, mais on trouvera un moyen. Il y a quelqu'un qui demande une expérience VR de Silence en Joue dans la peau d'Erwan qui agite les bras pour interrompre Corentin. Alors l'idée est bonne, mais je pense que c'est trop dur, vous n'êtes pas prêt. le retour de la vidéo, non, c'est pas prévu. Moi, je dois avouer que je suis assez ravi d'être de retour en audio.
Il se met un nombre de doigts dans le nez hallucinant pendant l'émission.
Non, c'est juste que j'ai adoré bosser avec No Life. Alors, parce que d'une part, je pense que c'est impossible de retrouver un partenaire comme...
C'est horrible, ton image.
Tout le monde l'a maintenant, tout le monde a l'image d'Arwen.
Les 10 doigts, c'est horrible.
ne m'oblige pas à agiter les bras.
Non, pas les bras.
Non, ça a été un vrai plaisir de travailler avec No Life, mais je pense que c'est impossible de trouver un partenaire de cette qualité-là, de gens qui connaissent le jeu vidéo. Enfin voilà, il y avait tellement d'avantages aussi à bosser avec No Life pour produire des vidéos intéressantes. Enfin, tout le montage vidéo avec des jeux vidéo,
surtout la réal en fait, qui était le travail,
c'est-à-dire
que voilà, il y avait quelqu'un qui faisait l'illustration, qui mettait sur YouTube derrière, enfin c'était
Alex choisissait toujours les passages rétro.
Il y a aussi une demande qui a été validée par pas mal de personnes d'une chronique rétro de Patrick Hélio.
Je vous ai déjà parlé de Cinémaware et tout ça, parce qu'on peut faire des choses. Non mais avec plaisir, si voilà, on en reparlera sérieusement, mais oui, complètement, ça peut
il faudrait
reprendre un jeu comme ça, genre d'il y a 30 ans pile, et dire bah tiens, au mois de...
Ouais.
Il y a
30 ans, ce serait super,
ça serait marrant, ça, il y a 30 ans pile. Et vu qu'on va arriver sur les années 90, tout doucement, tu vois, c'est vrai qu'il y a un potentiel...
Oh, mais trop bonne idée. On va en causer.
2019, donc c'est 30 ans en arrière.
89,
La Game Boy.
L'Amiga, le ST.
Toutes les semaines, il y aura des choses à faire.
Il y a énormément de choses, après, il faut le temps.
La chronique, il y a 30 ans.
Ouais.
On en parle, on en reparle.
20 ans aussi, mais bon.
20 ans. Le retour de Joël Métro, hein, qui a été beaucoup demandé. Bah, évidemment, alors, il a eu des obligations professionnelles, hein, mais il est évidemment. Est-ce nécessaire de le répéter? Mais je vais le répéter. Il est évidemment le bienvenu quand il veut. Ce sera évidemment un bonheur, autant qu'il veut. La porte est ouverte. Voilà, ça c'était un long comme des coms pour la dernière de la saison. Mais on va commencer à parler de jeux vidéo. On va aller du côté de Arkham. C'est pas Arkham, mais c'est dans le Massachusetts. La ville s'appelle Oakmont parce qu'ils n'avaient pas les droits. Mais c'est très Lovecraftien, c'est The Sinking City. Les petites fleurs, le...
Ce son gélatineux, là, c'est tout Lovecraft. Hein, c'est...
Moi, ça m'a donné envie de faire une petite sieste sous un arbre.
C'est bucolique.
Fais attention aux arbres aussi, hein. On ne sait jamais.
Hein. Ah, mince.
The Sinking City, donc on se retrouve dans la ville d'Oakmont, hein, qui est comme la ville de Lovecraft Arkham au Massachusetts, et qui est comme la ville de Lovecraft Arkham, une ville fictive, une ville qui a été envahie,
en
inondée.
En plein dérèglement climatique. Hein. Voilà, il n'y a pas que ça non plus, mais quand même, hein, c'est, on patauge.
Et avec ce thème très Lovecraftien des créatures des profondeurs qui resurgissent de la mer. On incarne Charles Reed, c'est détective privé, qui a quelques petits problèmes psy. Hein.
Ouais, il n'est pas en grande forme, le monsieur, quand il arrive dans cette île, ville. Lui, il a des visions, il ne se sent pas très bien, ce monsieur, et donc il vient enquêter, il essaie de comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Et il débarque dans cet endroit qui coche un petit peu tous les poncifs de l'univers Lovecraftien, évidemment. On va resituer tout de suite, c'est important de resituer d'où vient ce jeu, parce que derrière ce titre, on trouve Frogware, c'est un studio ukrainien qu'on connaît très bien quand on est fan de jeux d'aventure, pour leur série Sherlock Holmes.
Yep.
Ça fait des années qu'ils travaillent sur les jeux Sherlock Holmes, ils ont fait un très beau boulot là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, en plusieurs années, ils ont vraiment fait évoluer la formule, ils l'ont retravaillé, ils l'ont questionné, et les derniers en date, les tout derniers sur la génération actuelle de consoles notamment, elle a vraiment proposé des choses intéressantes sur les, justement, tout
Crime
ce qui est mis en...
Punishment. Non,
c'est bien. Il y a celui-là, puis il y en a eu un autre encore, j'ai plus le titre en tête, la fille du...
Ah oui, exact, oui.
Je ne sais plus si on en a parlé ici, mais bon, bref. Et eux, ils ont vraiment travaillé sur comment on met en scène la pensée de Sherlock Holmes.
L'enquête.
Ce qu'avait fait aussi la série télé aussi, Sherlock, à peu près dans la même époque, c'est comment on met en image la réflexion de Sherlock Holmes. C'est fascinant, hein, la question, c'est comment on interprète ça. Et eux avaient trouvé des bonnes choses sur reconstituer des scènes, reconstituer l'œil de Sherlock Holmes, son œil, l'agilité de son œil, qui repère les détails sur une personne, qui va repérer comme ça des éléments, qui va permettre de construire une réflexion et de faire avancer l'enquête. En tout cas, voilà, pour resituer, eux, ils ont vraiment travaillé là-dessus, ils l'ont très bien fait, et on savait depuis un moment qu'ils travaillaient sur un projet Lovecraft. Alors, l'univers Lovecraft, c'est compliqué, parce que la licence, aujourd'hui, elle est chez Focus. Frogware était très copain avec Focus pendant longtemps autour de Sherlock, ils ne travaillent plus ensemble. Donc maintenant, Focus a gardé la licence donc Lovecraft,
Call of Cthulhu,
dont on a parlé il y a quelques mois maintenant. Et Frogware est chez Big Ben, travaille avec Big Ben, et là développe un univers Lovecraftien en se basant en partie sur son savoir-faire justement de mise en scène d'énigmes, etc. Mais en partant dans une autre direction. Et c'est là où il y a une rupture par rapport à Sherlock Holmes. J'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'il ne fallait pas non plus faire un Sherlock Holmes en mettant juste comme ça, en plaquant les préoccupations lovecraftiennes.
Est-ce que tant mieux ?
Alors en tout cas, ils ont tenté un truc. Oui. Ils ont tenté un truc, c'est la grande tentative de ce titre, c'est de partir sur un concept d'enquête en monde ouvert.
Ouais.
Alors moi, ça m'a rappelé justement, on en parlait tout à l'heure, du Alan Wake original. Moi, je me rappelle encore d'avoir vu une démo il y a très très longtemps, des débuts d'Alan Wake, où on était comme ça sur un monde ouvert, dans une ville ouverte. ouverte, etc. Ça s'est pas fait. Au final, eux, ils tentent le coup. C'est-à-dire qu'ils tentent le coup d'avoir, de proposer cette enquête, parce qu'on est quand même sur une enquête à la base. On est sur, on débarque dans cette ville qui est quand même ravagée, qui est vraiment dans un état lamentable après donc une montée des eaux. Ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs choses intéressantes. On va peut-être on va commencer là-dessus, sur ce côté monde ouvert qui est quand même osé. Il faut tenter le coup hein, de faire une enquête en monde ouvert. C'est pas évident, ça a rarement été vraiment tenté. Eux, ils le font et puis ils y vont franchement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un monde ouvert open world classique avec des objectifs qui s'inscrivent sur ta carte. Va là, va chercher ça, reviens faire ça, machin. Non. On retrouve l'ADN du jeu d'aventure avec une géographie que le joueur doit apprendre lui-même à gérer. C'est-à-dire qu'on te donne des indices sur une adresse. C'est entre telle rue et tel machin, dans tel quartier. Donc c'est à toi d'aller chercher sur ta carte où ça va se situer. Donc tu vas aller vraiment chercher physiquement un indice ou quelqu'un à trouver. Donc je trouve que dans les premières heures, ça contribue vraiment à créer un rapport assez singulier à l'environnement, à la ville, à l'architecture. Et ça marche bien dans un premier temps. Je trouve que vraiment, tu te dis, bon, bah, il faut que je prenne cette carte et que je me débrouille. Je ne vais pas aller chercher tel point, c'est à moi d'aller le poser. Ouais. Il y a tout un système, tu poses ton point avec tes petits repères, etc. Donc ça, c'est plutôt osé. Je trouve qu'il y avait le pari de faire ça. Il y a aussi le pari qui a rarement été abordé, c'est le racisme chez Lovecraft. C'est quelque chose qui est rarement, qui n'a jamais été vraiment abordé dans le jeu vidéo. Là, ils le mettent en scène. Mettre en scène justement ces tensions entre des factions de personnages radicalement différents en fait hein, avec des familles de personnages plutôt de simiesques et puis des personnages plus aquatiques avec des grosses tensions entre eux et puis tu passes ton temps dans le jeu à te prendre des scuds genre toi l'étranger tu me déranges machin. Je trouve que c'est pareil, c'est courageux. Je souligne le projet. Après, je trouve que au bout d'un moment, finalement, ça perd un peu de son. C'est pas très fin. Voilà. Ouais. Je comprends. Je trouve que c'était vertueux de le faire parce que ça n'a jamais été vraiment fait dans le jeu vidéo. C'est quelque chose qui est important, qui est indissociable de la littérature lovecraftienne. Le problème, c'est que c'est un peu fait au marteau, et que du coup, au bout d'un moment, finalement, tu perds même le.
C'est rentré au forceps, quoi.
Exactement. Ça aurait pu être plus fin.
On perd la force de la fiction. La force de la fiction, c'est toujours de faire passer des idées
de façon
en racontant une histoire. Alors que là, il raconte une histoire et là-dessus, tu as une surcouche de propos, alors qui est entendable, évidemment.
Ouais. Qui pique toujours hein, quand tu l'entends, mais. C'était bien de le faire.
En plus, ils font quand même. Alors, c'est là où tu te dis, il y a un truc qui a un peu été fait à l'envers. C'est-à-dire que, grosso modo, tu as des propos, tu as du racisme qui est décrit de manière assez
ouverte. Assez ouverte, et c'est assez verte même.
Ils ont dû quand même faire un avertissement avant. C'est attention.
Ce jeu est créé par une équipe multiculturelle.
Non, mais ça me choque pas l'avertissement. Moi, je peux comprendre.
À un moment, je veux dire, il y a pas besoin d'avertir pour dénoncer le racisme. Normalement, il y a pas besoin d'avertissement. Si tu veux, tu peux décrire. C'est dans la force de la narration, c'est justement ça. C'est tu décris un univers. Tu peux dénoncer des choses par la fiction, par un truc et pas forcément mettre des messages comme ça un peu.
Ouais, moi c'est pas une ligne de texte au lancement qui m'a embêté. Non, après, c'est plus ce côté. Voilà, on y va au marteau et du coup, ça perd un peu de son. Alors, les premières heures sont plutôt enthousiasmantes hein, parce que tu as ce côté ambitieux. C'est un projet ambitieux. On avait parlé du Call of Cthulhu il y a donc quelques mois que moi, je trouvais avait senti Lovecraft, avait compris Lovecraft, mais était diablement linéaire, était vraiment resté dans les clous, prenait même pas du tout de risque. Là, je trouve que le projet de faire un open world d'enquête, c'est osé et il faut y aller. Surtout que c'est un studio qui n'est pas du tout habitué à ça. Quand on s'appelle les Sherlock Holmes, ils reposaient, on en parlait un petit peu, Erwan, avant d'enregistrer. Ça, c'est comme tu disais, sur des hubs un petit peu plus fermés, un petit peu plus avec différentes enquêtes, etc. Là, on te laisse partir dans cette ville et je trouve vraiment que les premières heures, tu te prends quand même. En plus, il y a un look, je trouve que visuellement, il y a quelque chose, il y a un cachet. Alors, la technique n'est pas top, parce que c'est, ça reste un jeu de série B quelque part. C'est pas non plus un triple A avec. Mais je trouve qu'il a un cachet visuel. Il y a quelque chose. Il y a des ambiances. Le look des personnages est plutôt réussi. Justement, ces différentes grandes familles de personnages, ils sont troublants au début. Les premiers. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que les réactions de ton alter ego sont assez proches des tiennes quand il te dit mais oh là, mais je suis surpris de votre apparence, monsieur. Vous avez pilose pas. Tu vois, il y a un peu une gêne. Vous êtes un peu. Vous avez un faciès, etc.
C'est chelou, wesh.
Et du coup, ça marche bien. Vraiment, les premières heures, tu te dis ouais, il y a un univers, il y a quelque chose. Cette enquête, tu as ce petit frisson de l'enquête où on te dit va chercher
de la découverte.
Ouais, puis tu vas aller enquêter à la bibliothèque, tu vas aller enquêter sur tel endroit. Tiens, le type, tu vas chercher, il a été blessé, donc tu vas aller chercher du côté de l'hôpital.
Je trouve qu'il y a un point, c'est vrai que le chara-design est plutôt réussi.
Ouais, il est réalistico.
Même le visage du héros.
Il est marqué.
L'enquêteur.
Mais il est typique, il est vraiment très Lovecraftien, et ça, je trouve que pareil, c'est un peu. Parce que, je trouve qu'ils ont aussi compris, tu vois, les impératifs Lovecraftien. Tient d'un héros fatigué, à bout de souffle, qui de toute façon...
Il n'est pas bien. Alors, c'est vrai que son problème au héros, c'est qu'il venait à Oakmont chercher un psy. Il est venu...
Oui, il n'est pas bien. Il cherche une solution à son problème aussi.
Hein. Il se retrouve à fighter Destremont des mers.
Alors voilà. Donc, on arrive à ce... Pas comme je vous le disais, il y a ce petit frisson d'enquête qui marche bien, moi, qui m'a pris. Tu as ces mécaniques donc, typiques de Frogware, où tu vas reconstituer... en fait, concrètement, sur différents cas d'enquête. Hein, tel perso s'est fait tuer, il faut comprendre. Donc, tu vas sur place. Déjà, il faut que tu trouves où c'est. Donc, tu te documentes, tu vas aller, etc. Tu arrives sur place. Et là, tu as ces petits moments figés où tu vas avoir des souvenirs qui se matérialisent à l'écran. J'essaie de faire simple. Et tu vas devoir les interpréter, les mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, moi, j'ai trouvé une version un peu simplifiée de ce qu'on avait dans les Sherlock Holmes. Il m'a semblé que c'était plus simple. Il faut trouver, en gros, le sens. C'est vraiment pas très compliqué. Tu fais ça. Et puis, alors, jusque-là, ça marche bien. Je trouve vraiment ce côté, on te responsabilise. Et surtout, cette carte, c'est toi qui la gères. Et ça, je trouve que c'est bien, dans un open world, de te dire, débrouille-toi, fais ton enquête. Tu vas aller chercher... Ça fait, pour moi, justement...
T'as vu que c'est marrant de jouer avec les cartes ?
Non, mais
on se foutait de ma gueule quand je parlais de...
On en a parlé souvent ici. Interpréter Lovecraft en jeu vidéo, c'est très compliqué. Bien c'est sûr. Même une gageure, c'est tellement impossible. Et là, je trouve que le côté open world, de te dire, débrouille-toi, tu es perdu comme ce héros, t'arrives là-dedans, t'es un peu perdu, et ça contribue aussi la perte de soi, la perte des repères, c'est ça aussi Lovecraft. Donc ça, c'est une bonne chose, une bonne carte qui est jouée. Le problème, comme tu disais très bien Juan, c'est ce moment où d'un seul coup, tu vas commencer à devoir affronter des monstres. Des petits monstres, comment ils les appellent, les mal-êtres ou
les malbêtes.
Les malbêtes, pardon. Alors, ils ont un look plutôt bien foutu, parce que pareil, ils sont aussi le fruit d'une transformation malsaine d'animaux, etc. Ils sont dérangeants au début. Tu dis, ah tiens, ouais, c'est pas mal, il y a un look, il y a un truc. Et puis tu rentres très vite dans des parties de gunfight, où tu rentres dans des maisons, dans des endroits, et tu te dis, ah mince, il y a encore une séquence de gunfight, parce qu'il faut le dire, là, on rentre vraiment dans la partie molle du jeu, où ça ne fonctionne pas. Et là, je pense que c'est là où on voit qu'il y a de l'ambition, mais ils sont partis certainement dans tous les sens et sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et malheureusement, c'est parti de gunfight. Alors que moi, je suis plutôt bon client. Hein. Moi, sur les jeux en TPS, les jeux d'action, je suis plutôt bon client, j'aime bien ça. Je suis même tapé les pires Resident Evil, je les ai faits. Là, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que c'est mou, c'est pas précis, et tu souffres. C'est-à-dire qu'en tant que joueur, tu te dis, mince, vivement que j'en finisse, parce que je veux avancer dans mon histoire, plus que ces passages où tu dois fighter des petits monstres qui courent dans tous les sens. T'arrives pas à les viser, c'est marche pas bien. Et là, c'est là où le jeu se prend les pieds dans le tapis, en fait. C'est que là, tu perds ce côté plutôt immersif que tu avais dans les premiers instants, dans les premiers moments. Là, tu...
Mais c'est quoi, c'est pour allonger la sauce, tu penses ?
Enfin, en fait, le problème...
C'est plus profond que ça, je pense.
Patrick a à peu près tout dit.
Je pense que c'est plus profond que ça, malheureusement. Attends, je veux juste conclure là-dessus. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, quand tu veux vendre un truc plus ou moins affilié à Lovecraft, on te dit il faut du fighting avec des tentacules, avec des bêtes qu'il faut que tu te combattes. Et ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et là, malheureusement, je trouve que cocher cette case-là sur ce projet-là, ça ne marchait pas. Il n'y a pas que ça, heureusement. C'est presque anecdotique, j'ai envie de dire. Mais ce sont quand même des passages douloureux qui ne sont pas sympas à jouer, alors que ça aurait pu être... tu vois, ça n'apporte rien. Et c'est même plutôt punitif. Et ça te sort du jeu.
Mais en fait, c'est un truc qu'on a répété plusieurs fois, même dans cette saison, pour pas mal de jeux. Le problème, il est hyper courant. C'est que tu veux rentrer dans des cases. Là, les cases, elles sont claires. Elles sont monde ouvert. Système d'expérience, crafting. combat, c'est-à-dire en fait grosso modo plein de choses dont on n'a rien à faire, ni dans, qui n'ont rien à faire ni dans un univers Lovecraftien ni dans un jeu Frogware. Alors, le truc c'est que Frogware a une expertise, a vendu des choses sur l'enquête, sur Sherlock Holmes, sur des jeux qui sont certes un peu structurés, un peu limite claustro des fois parce que t'es sur des rails, mais au moins t'as un savoir-faire, t'as une vraie reconnaissance et t'as quelque chose qui ne ressemble pas à d'autres jeux. C'est, il y a une signature Frogware sur les jeux Sherlock Holmes qui était là. Et à la place de d'aller plus loin et justement d'appuyer cette originalité, cette singularité de Frogware, et ben ils font quoi? Et ben ils dépensent énormément d'énergie à rajouter dans un de leurs jeux des choses qu'ils ne savent pas faire. Et alors ça donne finalement quelque chose. À la place d'aller dans une singularité, dans une originalité, finalement tu noies ton jeu parmi toute la. C'est les mêmes remarques. En fait, la même remarque que j'avais fait sur Shadow of the Tomb Raider, si vous vous souvenez, en début de saison. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir. Enfin, je veux dire, tu joues un enquêteur. Tu joues un enquêteur dans une ville du Massachusetts avec. T'as pas envie de gérer des arbres de compétences. T'as pas.
Non, surtout. La force de Sherlock Holmes, c'était le côté psychologique des personnages que tu rentrais, que tu rencontrais.
Bien sûr.
Et là, il y avait une porte ouverte pour dire, on va justement creuser cette psychologie des personnages. Et là, finalement, c'est vrai que, comme tu dis, on se perd dans un open world qui est vide, qui m'a rappelé L.A. Noire dans ce côté, tu sais, open world, et avec en plus des passages en bateau. Alors, je comprends l'idée, ok, on est sur une ville submergée, ok, mais le problème, c'est qu'au bout de 15 allers-retours pour trouver ton chemin, tu te retrouves avec des séquences de bateaux qui, en plus, ne fonctionnent pas bien parce qu'elles sont un peu laborieuses, tu tapes contre les murs. Tu pestes, et ça, c'est jamais très bon. Et je me suis rendu compte, moi, au bout de 5-6 heures, que je perdais de plus en plus l'impact, le choc de l'arrivée dans l'endroit de ces premières rencontres avec des personnages, etc. Et que je partais dans des boucles de gameplay, de mécanique, et notamment que ces parties de combats qui ne sont pas réussies, cette navigation. Et je finissais par pester contre des mécaniques qui me faisaient complètement sortir d'une narration qui avait un potentiel. Encore une fois, l'univers était là. Moi, je comprenais le postulat de dire, on fait de l'open world, je peux le comprendre. Parce qu'encore une fois, je pense que ça peut caler avec les préoccupations lovecraftiennes. Le problème, c'est qu'effectivement, ça s'évase.
Et il y a un moment, il faut reconnaître les limites de son savoir-faire en tant que studio. Et moi, le truc caricatural, je vais vous dire le truc caricatural. Mais le truc qui te saute à la gueule quand tu regardes ces éléments-là, c'est l'arbre de compétences. C'est l'arbre de compétences. Tu sais, tu commences et t'as des points, donc tu dois obtenir.
Et t'as cette. Et qui est pas en plus, que j'ai pas.
Et t'as cette saloperie de compétences qu'on connaît tous. C'est la première compétence que tu prends.
Que tu dois faire obligatoirement.
Vos actions rapporteront plus de points d'expérience.
Ouais. Elle est con, cette.
Il y a beaucoup de trucs
dans tous les jeux. Dans tous les jeux à arbre de compétences, tu la trouves. C'est-à-dire que tu prends une compétence qui est vos actions futures rapporteront plus de points d'expérience.
Je suis d'accord avec toi, mais la question, c'est pourquoi mettre tout ça? Est-ce que c'est pour dire, j'essaie de parler un peu à tous les joueurs, j'essaie de faire venir des joueurs qui ne sont pas forcément.
C'est du cahier des charges.
Mais même pour convaincre du projet, pour que le projet puisse exister à la base, je pense qu'il faut arriver avec ça. Leur dire, c'est un jeu d'action. Enquête.
Après ce titre, mais attention, j'y passe de bons moments, vraiment, parce que ça m'intéresse. Je comprends le postulat de ce qu'ils ont voulu faire. Après, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on doit essayer d'adapter l'univers Lovecraftien, la tradition Lovecraftienne en jeu vidéo. Ça pose plein de questions.
Le truc, c'est que tu as un studio qui s'appelle Frogware qui s'était posé cette question pour faire des Sherlock Holmes. Ils se sont posé la question. Les mecs, ils se sont posés sans doute, je sais pas, j'étais pas là, mais tu les imagines très bien, cette posée feuilles de papier autour d'une table en se disant ok, on doit. On se pose la question, comment adapter des Sherlock Holmes en jeu vidéo.
Il y avait un côté gothique souvent à leur jeu, il y avait même dans l'ambiance, c'était noir.
Et là, je suis désolé, c'est à un moment, tu t'es parti.
Tu vois, quand je me suis retrouvé dans ces moments de tir à vue sur des monstres où en plus c'était pas précis, je me suis dit, mais il y a presque une vulgarité là-dedans. Alors que Lovecraft, tu as une forme de poésie noire, une forme de. Tu vois, de quelque chose de funèbre, mais qui doit te faire réfléchir. Et là, je trouve la mise en image et en gameplay, il y a une forme de vulgarité. Alors, comment on doit adapter ça? On en avait parlé il n'y a pas longtemps, je crois, Untold Story, par exemple, c'était peut-être une bonne manière d'adapter aussi cette tradition lovecraftienne, c'est-à-dire différemment, l'aborder autrement. Après, est-ce que c'était la bonne manière de faire? J'ai envie de dire, je lui accorde le fait d'avoir essayé. Il a essayé des choses, ce jeu. Il y avait une ambition, tout ne marche pas, bah, il faut parfois passer des passages moins intéressants. Mais moi, j'ai envie de dire, il a tenté des choses.
Ouais, il a tenté trop de choses. Donc, The Sinking City dispo sur Windows, PS4, Xbox One et annoncé sur Switch.
Il est annoncé sur Switch.
Annoncé
d'accord.
Sur Switch.
Bon, bah écoute.
C'est le moment d'accueillir.
Je vais finir, moi, quand même. Non, parce que j'accroche à l'univers, donc je vais finir. Même s'il y a des passages plus difficiles que d'autres.
Si tu t'en souviens, tu pourras nous en parler à la rentrée. C'est le moment d'accueillir pour sa dernière chronique de la saison l'exceptionnel Jérémy Kletskin.
Ah.
Salut Jérémy.
Salut Erwan, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va parler d'un jeu qui fait un carton monumental. Il s'agit encore d'oiseaux avec Wingspan. Pour beaucoup d'experts, et même si l'année n'est pas encore finie, on tient là le champion de 2019. Alors attention, il s'agit d'un gros jeu. Il y a beaucoup de textes sur chaque carte. Il y a des dés, il y a des jetons, il y a un grand plateau. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est justement dans cette grande variété que réside l'intérêt du jeu. Là encore, on a un plateau individuel séparé en trois zones. Sur la partie supérieure, il s'agit d'une forêt. Au centre, il s'agit d'un champ. Et dans la partie inférieure, il y aura un lac. Il y a 170 cartes oiseaux et elles sont absolument toutes différentes. On y trouve une illustration encyclopédique, le nom scientifique de l'oiseau ainsi qu'en latin, un ou plusieurs types de nourriture qu'il va consommer, donc des vers, des plantes, des poissons, des fruits ou même des rongeurs. On y trouve sa taille, sa catégorie, le nombre de points qu'il va rapporter, ainsi qu'une action unique. Ces dernières pourront être activées au moment où on pose la carte ou plusieurs fois dans le jeu à chaque fois qu'une condition sera vérifiée. Lors de leur tour, les joueurs auront le choix entre 4 actions. Ils pourront jouer une carte oiseau de leur main sur le plateau devant eux. Ils pourront obtenir de la nourriture à l'aide de dés et ainsi activer la ligne forêt de leur plateau individuel. La troisième action possible leur permettra de pondre des œufs sur les cartes de leur choix en fonction de leur progression sur la deuxième ligne des champs. Ou enfin, ils pourront piocher des cartes et ainsi activer la troisième partie inférieure de leur plateau individuel, la ligne illustrée par un étang. Certaines des cartes oiseaux déjà posées sur ces lignes-là vont être réactivées à chaque fois. Au centre de la table, et là c'est vraiment ce qui est génial dans ce jeu, on trouve un plateau avec 4 pistes de score. Sur chacune d'entre elles, on va poser une tuile qui va indiquer comment on marque des points lors de chaque étape. Évidemment, ces tuiles sont tirées et posées au hasard. Je vais vous donner un exemple. Pour obtenir un maximum de points lors du premier quart de la partie, il va falloir collectionner un maximum d'oiseaux des forêts. À la fin du second quart, on va compter les œufs qui auraient été pondus par une certaine catégorie d'oiseaux. À la fin du troisième quart, c'est le joueur qui aura le plus d'oiseaux sur son plateau qui obtiendra un maximum de points. Et enfin, la quatrième tuile pourrait vous donner des points si vous avez un maximum d'oiseaux des lacs. Et donc l'objectif et les stratégies de développement sont complètement différentes à chaque partie. Ce jeu a une rejouabilité de malade. Donc retenez bien le nom, Wingspan. Il est déjà en pole position pour le Spiele, pour l'As d'or, etc. L'auteur Elizabeth Hargrave, l'éditeur Stonemaier Games, édité en français par Matagot, de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 1 heure et demie. Hein. Et voilà, et je voudrais te remercier Erwan vraiment du fond du cœur de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de m'exprimer ici à Silence en Joue. J'ai vécu une année complètement dingue à apprendre les règles de plus d'une centaine de jeux. Et puis surtout j'ai rencontré des gens aux quatre coins du monde, dans des salons, dans des cafés-jeux. Merci à la Rocambole à Lille, au Boisrieur à Vincennes, au Gator Game à San Francisco, au DT Game Lab à Osaka, au Colonel Moutarde à Montréal, et évidemment à Frick, ma seconde maison, à Herzliya. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager leur passion avec moi et m'aider à naviguer l'extraordinaire univers des jeux de plateau. Vous qui allez voyager cet été en province ou à l'étranger, cherchez ces petites boutiques de jeux de plateau, allez passer une soirée dans un bar à jeux, c'est un vrai bonheur. Bonnes vacances à tous, bye bye.
Bye bye Jérémy, et bonnes vacances aussi, et c'était vraiment félicitations, hein. Félicitations, ah ouais, parce que moi j'ai reçu un mail quand même, j'ai reçu un mail de Jérémy Kletskin l'été dernier, où il me proposait, voilà, il savait, Monsieur Fall s'était arrêté et tout ça, et il m'a proposé ça, moi je dis bah, why not, il m'a proposé de faire un essai, il m'a envoyé sa première chronique, j'ai dit bah ouais, non mais vas-y, mais... Rends-toi bien compte que c'est un engagement, une chronique par semaine, c'est énormément de taf et tout ça. C'est puis il a dit non mais je m'engage, je vais y arriver et tout, et il l'a fait et vraiment bravo parce que c'était pas évident et j'espère qu'il sera là la saison prochaine. On verra ça.
On l'applaudit en tout cas.
On l'applaudit, on verra ça à la rentrée. C'est le moment tant attendu, n'est-ce pas, Corentin? Alors, j'espère que ton vocabulaire va s'étendre.
Il nous parlait que de ça depuis des mois.
Il est arrivé sur Switch après une première édition sur 3DS. C'est Super Mario Maker 2. J J'ai évidemment complètement zappé l'édition Wii U.
C'était la première, hein,
c'était la première. Donc en fait, c'est Wii U puis 3DS.
C'est Wii U en 2015.
Surtout Wii U, ouais.
Wii en 2015.
La 3DS, c'était moins, 3DS en 2016. Moins intéressante.
Bah oui, mais parce que comme la Wii U ne s'est pas vendue du tout, la version 3DS était la version la plus vendue.
Ça, problème.
Un peu moins bonne, hein, la version 3DS, ouais, pour une simple et bonne raison. On ne pouvait pas partager ses niveaux en ligne.
En détail.
Ce qui est ballot, hein. Mais après, je crois que Patrick a des choses à dire sur cette version concernant le partage en ligne, hein, Patrick.
Super Mario Maker 2, cher Corentin, je te laisse la parole.
On va dire que depuis que la Switch est sortie et donc son succès a été démontré, on attendait en fait la réédition de chaque jeu, hein, de la Wii U sur Switch. Donc Splatoon pour commencer, qui est sorti sous la forme d'un 2, mais qui était plus un 1,5 qu'un 2. Mario Kart sorti sous la forme d'un Deluxe. Smash Bros qui est vite ressorti dans une version qui est quand même bien différente du précédent, mais qui quand même n'est pas si éloigné que ça. Donc voilà, on est dans cette continuité de... c'est quand même dommage, ces succès de la Wii U qui auraient pu avoir un potentiel beaucoup plus grand s'ils étaient sur une autre console. Du coup, on va les refaire sur Switch. Et à raison, parce que oui, entre Smash, Splatoon, Mario Maker, on est vraiment sur trois des jeux.
Mario Kart aussi,
c'est vraiment quatre des jeux qui ont pour moi fait, qui ont montré quand même que la Wii U avait une ludothèque qu'il fallait quand même explorer un minimum.
Et ce que vous disiez, c'est intéressant, ouais, sur le Mario Maker, effectivement, je pense que la version 3DS était la plus connue, alors que c'était pas forcément la plus.
C'est pas la plus connue, mais celle qui s'est le plus vendue.
Oui,
mais pour une raison simple, c'est parce que la 3DS avait un parc installé hallucinant.
Alors que la Wii U était vraiment innovante.
C'était la version reine, on va dire. Quand tu vas sur Internet, regardez les Twitchers, les streamers, ils jouent sur Wii U, bien sûr. Ils jouaient sur Wii U.
Ils jouaient sur Wii U. Il faudra voir d'ailleurs la communauté Wii U. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va perdurer?
Ah, je pense pas.
Sur Wii U, on verra.
J'y crois pas une seconde. Il y a tellement de nouvelles choses en fait dans ce Mario Maker. Donc Mario Maker 2. Alors que faire dans un 2 quand le 1 déjà était sorti, qu'il avait eu des mises à jour avec des nouveaux objets qui ont été rajoutés? Comment on fait un 2? Comment on marque le coup? C'est vrai que c'était un des enjeux. Mais je pense que Nintendo avait plus ou moins répondu à cette question-là dans le Mario Maker Direct. Eu lieu avant le 3, c'était le dernier un des derniers directs avant le 3. Et ils ont fait 20-30 minutes juste en déballant des nouveautés, quoi. Enfin, tu vois, donc c'était d'accord, il y a plein de choses nouvelles. Donc, sinon, on reste sur le même principe. Donc, un jeu on va dire trois volets cette fois-ci, quand même. Un volet création de niveau. Donc, on arrive dans un éditeur de niveau où on va créer son niveau, le faire jouer à ses amis en local.
Ou alors, il y a des aides, etc.
Voilà, c'est une interface assez, on va dire, organique, rigolote, très pensée comme un tactile. Ça aurait pu être un jeu mobile, quoi, vraiment. Ouais.
C'est vrai qu'il y a une rupture par rapport à la Wii U. Moi, je pense surtout Wii U parce que je l'ai surtout fait sur Wii U. C'est vrai qu'on avait la mablette, la fameuse mablette qui permettait de toucher en direct ce qu'on voyait à l'écran. Et là, c'est une des différences.
Ouais. Et je trouve qu'on y perd un peu, mais bon, après, la mablette était compliquée, quoi. Ouais. Mais on perd un petit peu. C'est vrai que le fait d'avoir une mablette et l'écran, on passait vraiment de... On construit sur son écran, on lève la tête, on joue à son niveau.
On pouvait même secouer des éléments.
C'est vrai que là, au doigt, c'est un peu moins précis. Ouais. J'ai un sentiment, quand même, sur cet éditeur, d'être un peu plus contrit, d'être un peu plus... c'est un peu plus claustro, quoi. C'est un peu trop zoomé à mon goût.
On
finit par s'y faire.
Un jeu Wii U, pensé à la... pour la Wii U à la base, vraiment à l'origine, et qui a été du coup adapté.
Oui, voilà, il a été adapté à un gameplay. Alors, il y a deux gameplays différents, comme pour tous les jeux Switch, comme beaucoup de jeux Switch. Donc, le gameplay docké et le gameplay portable. Donc, évidemment, le docké sera le plus lent, puisqu'on va tout manipuler à la manette avec un système de raccourcis, de boutons. Alors,
Crées comment tes niveaux? Toi, tu les crées en tactile?
Là, j'ai un peu tout fait. Honnêtement, j'ai fait tout mon premier niveau quasiment qu'à la manette. Et je suis en train de construire un deuxième niveau.
La manette, quand même, en docké, là.
Ouais, en docké, les deux façons de faire. Okay. Et là, le deuxième niveau que j'ai bien avancé, j'ai tout fait au tactile.
Tu veux dire que le détompez-vous? Tu l'as fait à la manette.
Détompez-vous et fait à la manette. Mais en vrai,
j'ai souffert sur son niveau. On en parlait avant l'enregistrement.
Il y a un système en fait. Il faut comprendre comment il fonctionne. Et je trouve qu'ils expliquent pas assez la logique derrière les menus. Donc en fait,
Tu as le pigeon, tout ça qui t'explique.
Lui il t'explique comment faire de bons niveaux, mais il t'explique pas les raccourcis. Il y a certains trucs que que tu peux rater, enfin que tu peux ne pas voir. Comme par exemple, sur le tactile, il y a plein de choses. Moi, que j'ai découvert en regardant des vidéos YouTube de mecs qui t'expliquent, et vous avez remarqué que, et par exemple, si tu prends un élément que tu l'enlèves vite sur le côté, si tu l'écartes vite sur le côté, il y a une poubelle qui apparaît, tu peux le virer comme ça. T'as pas besoin de sortir la gomme et de le gommer. Ou alors, si tu prends deux doigts, tu scrolles. Et ça va super vite.
Ouais. Et c'est pas expliqué ça concrètement.
Ou alors c'est peut-être expliqué dans le mode d'emploi. Mais je t'avoue que je suis pas allé dans le mode d'emploi.
Non, mais ce qu'il faut en savoir, c'est qu'il faut pas hésiter. Peut-être que Nintendo a aussi intégré que les gens allaient beaucoup sur les réseaux.
Autre point, mais ça c'était déjà un défaut de Mario Maker 1, c'était qu'il y a certains trucs qui sont intuitifs et rigolos et c'est marrant une fois que tu le sais. Mais si personne te l'explique, c'est compliqué. Par exemple, tu sais, dans les Mario, habituellement, quand tu passes un checkpoint, tu grandis. Enfin, tu chopes un power-up. Tu peux le faire là. C'est jamais expliqué, mais tu peux le faire.
C'est pas obligatoire.
Le checkpoint de base, il va pas te donner le power-up, mais tu peux glisser un power-up dans le checkpoint comme un bloc.
Ouais.
Et en fait, il va te donner. Mais personne te le dit. Et donc, si tu le sais pas, tu peux vite passer à côté.
Il y a aussi une courbe d'apprentissage quand tu veux créer tes niveaux. Moi, je parle de ça. Je suis pas créateur de niveau pour l'instant. J'avoue que j'ai pas le temps et j'ai pas cette fibre dans l'immédiat.
Un dimanche entier pour faire un long niveau comme ça.
Moi, je consomme les niveaux des autres. On en parlera après. Mais on va te laisser finir sur la création. Mais voilà, c'est des choses que tu apprends. T'as une courbe aussi. T'as une vraie courbe de.
Après,
c'est aussi ce qui rend fascinant.
Et ce qui reste quand même, parce qu'il faut le dire, la force de Super Mario Maker, c'est cette force de la programmation aussi d'une manière générale.
C'est logique.
C'est
très robuste.
C'est essayer par l'erreur, essayer par. Moi, j'ai été donc je raconte sur l'aspect création. Enfin, j'ai laissé à mon fils un mercredi. Alors, il n'a pas joué toute la journée parce qu'ils ont quand même, ils sont limités en temps d'écran, mes enfants, quand même, faut pas déconner.
Tu lui as laissé la Switch, déjà.
Non, mais ça, j'ai abandonné le combat, là. De toute façon, depuis Yoshi Crafted World, c'est foutu. Okay. C'est bon.
Donc, il a ta Switch.
Et quand même, je suis rentré du boulot le soir et il m'a montré, il avait fait un niveau.
Mais déjà qu'il avait, on le voyait, il faisait des dessins déjà de niveau.
Oui, certes, mais il avait joué à Super Mario Maker sur 3DS un petit peu, donc il s'était un peu. Déjà, il avait fait déjà des choses qui étaient impressionnantes, mais là j'ai été quand même. C'est super agréable le côté essai. Tu poses un truc, t'appuies, et puis tu joues le niveau, et puis tu vois où c'est, et puis tu vois ce qui se passe, corriges. Je trouve qu'il y a une sorte de fluidité qui est absolument géniale pour l'apprentissage.
Tu passes du test à la construction très rapidement.
Du coup, tu apprends en permanence à jongler avec les éléments, mettre des nouveaux éléments, à voir comment ça
corriger tes erreurs.
Ce petit bonhomme de 7 ans, il m'a mis des portes, il a mis des pièges, il a mis des trucs qui tombaient du plafond. Le niveau, il n'est pas énorme, ça n'a rien à voir avec le tien, évidemment.
Mais il y avait un récit, il y avait une porte
qui menait à un piège, je suis mort. Une autre porte qui permettait de récupérer une clé pour ouvrir une troisième porte qui permettait. Du coup, c'était quand même en quelques heures, il avait fait un truc. Ça montre la puissance de cette interface.
Rien que pour ça, c'est un must. On en parlait un peu avant l'enregistrement. Je pense qu'il est encore trop tôt, parce que le premier, il a 4 ans. Mais je pense qu'il y aura une génération de game designers qui auront été biberonnés par ce titre. Je pense que concrètement, on pourra dire dans quelques années, moi, je me rappelle avoir commencé tout jeune à faire mes niveaux sur Mario Maker. C'est pas rien, quand même. Et je trouve que ça livre des outils aux enfants.
Ça va peut-être ouvrir des vocations.
Génial, ça fait cliché de dire ça, mais je pense effectivement que ça peut vraiment ouvrir des portes.
On peut peut-être signaler quelques nouveautés, quand même, parmi cet outil qui a dû être remanié.
On parle d'un 2, quand même.
Pour conclure sur l'interface, je dirais qu'elle est un peu moins intuitive que le Mario Maker 1, mais c'était obligé, étant donné que ce jeu a été créé pour la Wii U, c'était obligé qu'il allait y avoir des concessions d'un point de vue ergonomique. Ouais. Mais dans l'ensemble, ils se débrouillent bien. Mais c'est vrai que moi, là, il m'a fallu un vrai temps d'adaptation et je suis beaucoup moins rapide à créer un niveau maintenant là sur Switch qu'à l'époque sur Wii.
C'est bien, ils n'ont pas seulement porté l'original. Ils auraient pu dire, on ressort l'original en deluxe avec 2-3 trucs en plus et ça aurait très bien fonctionné. Là, il y a eu aussi l'effort d'apporter une suite.
Et il y a les nouveautés. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté principale? Je ne vais pas toutes les citer. Il y a un truc qui avait été demandé depuis très longtemps, qu'il n'y avait pas dans Mario Maker 1, et c'est vrai que c'est un peu chelou qu'il n'y ait pas ça, c'était un peu compliqué à intégrer dans le système actuel. C'était les pentes. Il n'y avait pas de pentes dans Mario Maker 1, c'était des escaliers ou des machins. Il y a enfin les pentes, des pentes normales ou des pentes de tapis roulant.
En Mario.
Tapis roulant. C'est vrai que c'est un des mouvements de Mario, c'est de pouvoir glisser sur les fesses et de taper les Goombas avec son cucu. Et du coup, le fait de pouvoir les mettre, ça aussi donne des niveaux qui semblent être être un peu plus arrondi, un peu plus souple, ouais. un peu plus naturel.
Bah, plus
fait.
Varié aussi. Ouais.
Mais dans les vraies grosses nouveautés, par contre, on a quoi ? On a un cinquième style qui est
ouais. 3D World.
Super Mario 3D World, donc World 3D, le jeu de la Wii U, qui ouais. n'était pas un jeu 2D, hein, qui était
isométrique.
Un jeu 3D, ouais, avec une vue, ça dépendait des niveaux, mais ouais, une caméra fixe en tout cas, ou en tout cas une caméra sur un rail. Là, du coup, on est sur une version 2D, mais on a un moveset qui est proche de celui de Mario 3D World. Par exemple, on a le long jump qu'on n'a pas, le saut en longueur. Hein,
le chat.
On va encore m'embêter parce que je dis des mots en anglais.
Mais le voilà, chat, le chat.
On a Mario chat. On a aussi, on a le salto arrière qui nous vient de Mario 64. On n'a pas le petit tourbillon de New Super Mario U qui est bien pratique, mais là il n'y est pas, du coup on a des réflexes qui marchent moins. Mais surtout, en fait, on a un style qui est rond avec les quatre autres, c'est-à-dire qu'ils sont pas ils sont pas interconnectés, c'est-à-dire que dans les quatre autres styles, si vous prenez par exemple Super Mario Bros 3, qui est personnel, mon titre préféré, mon style préféré, on peut passer à Super Mario World et tous les éléments seront changer dans le style correspondant.
Comme ça directement, oui. C'est...
Voilà, avec son set de règles.
Ce qui peut être sympa d'ailleurs de pouvoir comme ça juste.
Ce qui peut être sympa, c'est dangereux aussi d'un point de vue level design parce que ce qui est possible dans l'un n'est pas dans l'autre.
Ouais,
faites attention, quoi.
Est-ce que la physique.
Voilà. Mario 3D World, en fait, a des règles tellement différentes qu'il vous force à recommencer le niveau du début. Si jamais vous avez déjà un niveau, vous ne pouvez pas juste le passer.
Faut savoir,
commencer votre niveau en 3D World parce qu'il n'y a pas les mêmes objets, parce que c'est différent, parce que voilà.
Non, mais c'est bien qu'ils aient apporté aussi, voilà quelque chose.
Mais du coup, ça donne aussi des objets cool, comme par exemple les arbres qu'on peut monter et faire le poirier pour débloquer des objets. On a les blocs qui clignotent en rythme. On a des blocs serpents qu'on peut sortir du. Enfin, on tape dans le bloc et le bloc, il fait une forme. Il y a plein d'objets qu'on n'a pas nécessairement et qui étaient compliqués à intégrer dans les anciens modes, dans les modes classiques. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, ça, c'est un énorme élément qui a été rajouté. Ouais. Ils ont ajouté également un mode nuit pour toutes les scènes. C'est-à-dire que vous pouvez choisir une scène, c'est-à-dire souterrain, plaine, château, avec chacun ses règles. Par exemple, dans le château, vous aurez de la lave, ou alors dans la forêt, vous aurez un plan d'eau, c'est-à-dire que, ou sous l'eau, bah, vous êtes sous l'eau complètement. Et vous pouvez passer en mode nuit, c'est-à-dire que vous avez un mode alternatif pour chacune de ces scènes qui va rajouter un set de règles différents. Mm-hmm. Par exemple, si vous êtes dans le ciel, vous allez avoir une gravité réduite. Si vous êtes dans le château, vous aurez de la lave, mais vous serez dans l'eau ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, y a plus de curseurs en fait pour le créateur de niveau, pour s'amuser comme ça, à personnaliser vraiment, à amener une touche plus singulière.
Et ça, c'est une grosse, grosse nouveauté. Ça apporte du coup une variété de niveaux. Par exemple, le souterrain, si tu passes en mode nuit, t'es à l'envers. C'est-à-dire que la gravité est inversée. Du coup, ça te retourne un peu le cerveau.
Et le solo ? Enfin, tu l'as pas abordé encore.
C'est un des trois volets. Oui, c'était il y a longtemps, mais c'est un des trois volets. L'autre et la dernière nouveauté que je voulais aborder, c'était les conditions de victoire, à mon sens.
Ah oui, les
très intéressant.
Défis, c'est ça en fait.
Conditions de victoire, c'est-à-dire que tu peux dire, tu ne peux finir le niveau que si tu es en étoile, ou alors tu ne peux finir le niveau que si tu es Digumba, ou alors tu ne peux finir le niveau que si tu
as récupéré toutes les
pièces, ou alors si tu n'as pas réatterri après un saut. Tu vas faire tout ton niveau en l'air.
C'est vrai que c'est important que tu abordes différemment la carte quand tu as ces objectifs. Tu joues pas pareil. En fait, ça modifie ta façon de jouer.
C'est pas compatible avec les checkpoints, mais ça, c'est du détail, vous verrez bien. Donc ça, c'est le premier volet, c'est tout l'aspect construction.
Ah, on est sur le premier volet, là.
Ouais, on est sur le premier volet. C'est gros, Mario Maker, en vrai. Ensuite, il y a l'aspect solo. C'est-à-dire qu'il y a un mode histoire, mode histoire.
Oh, histoire, oui.
Non, mais une campagne. donc Mario doit reconstruire le château de Peach et pour ça, il doit accomplir des missions pour récolter des pièces pour
payer. À cause d'un chien qui appuie sur le.
Ah, c'est le Undo Dog. C'est le Undo Dog qui efface.
Qui a appuyé sur la fusée,
donc qui a détruit le château. Donc en fait, on va faire des missions qui seront payées en fonction de la difficulté. Et en plus, en bonus, on a les pièces qu'on aura récupérées dans le niveau. Donc, ce qui donne des incentives, ça donne des carottes pour aller chercher la petite pièce qui est.
C'est une bonne chose que c'est assez riche, il y a pas mal de niveaux, il y a une centaine de niveaux je crois, c'est ça ?
Il y a 120 niveaux
je crois. C'est quand même pas rien, c'est un gros morceau quand même.
C'est plus de niveaux que dans un Mario, un New Mario classique, c'est beaucoup beaucoup de niveaux. Rien qu'avec ça, honnêtement, vous êtes déjà bien...
Il y a une bonne partie du contenu.
Ouais, il y a pas mal de contenu.
C'est surtout une source d'inspiration pour les créateurs en herbe.
J'ai remarqué que dans le mode solo, il y avait... parce que je me souvenais pas, ayant fait que Mario Maker en 3DS, je me souvenais pas que dans le mode solo sur Mario Maker, il y avait la possibilité de revenir en mode édition. parce que là,
oui,
dans,
ça c'est nouveau.
C'est nouveau, c'est-à-dire que t'es dans le mode solo.
Tu reprends
et si tu galères, t'as la possibilité de rajouter des objets. Ouais. Tu retournes. Et je trouve que c'est un point hyper intéressant parce que ça fait super bien Mario Maker. Ouais. Tu joues à un niveau et en fait tu peux switcher en mode édition pour rajouter un bonus, rajouter un mur, rajouter une plateforme.
Du coup,
etc.
J'imagine que les niveaux ont aussi été pensés dans ce sens-là, de pouvoir aussi peut-être possible. Laisser la latitude. Alors c'est pas obligatoire, mais tu peux reprendre la main.
Bah, ouais. Tous les niveaux ont été pensés pour être faits sans cette aide-là, mais en fait c'est Luigi qui arrive. Luigi souvent qui représente l'aide pour les joueurs qui galèrent. Il arrive au bout de 2-3 morts et il dit si t'as besoin d'un coup de main, on peut placer un champignon ou alors une plateforme. Et ça, c'est cool. C'est une aide intelligente parce qu'elle vient dans la logique de Mario Maker qui est de construire des niveaux. Et ça, c'est super malin. Ouais. Donc, c'est une très bonne idée. Alors, à titre personnel, je suis plutôt quelqu'un qui va essayer de persévérer, d'avoir le challenge et tout ça parce que c'est là où je prends mon plaisir.
Ouais,
mais je sais que c'est pas forcément un plaisir qui est partagé par tous. Mm-hmm. Et il y en a qui vont préférer trouver la solution un peu rigolote pour s'en sortir avec 3 blocs supplémentaires.
Ouais, je peux modifier ton niveau du coup.
Alors, non, on va en parler. C'est dans le 9, c'est un des changements.
C'est dommage que j'aurais bien, mis une plateforme.
On peut télécharger le niveau pour les jouer, mais on ne peut plus les modifier.
Sur ton niveau, j'aurais bien mis une plateforme montée, là, dans le sourd.
J'uploaderai une version simplifiée pour
merci,
toi.
Merci, spécial Patrick.
Et le fait, en fait, qu'on construise un château, c'est bien fait, ça permet d'avancer. Avançons justement, puisqu'Arwan m'agite les bras. Le dernier volet de Mario Maker. Et
de la première partie, de la première section.
Non. Premier volet, construction. Deuxième volet, solo. Troisième volet, online. Et le online, c'est... On est dans le cœur du Mario Maker, le partage de niveaux, la réception des niveaux des autres et tous les modes qui gravitent autour.
Ah, c'est le cœur du jeu pour moi. C'est le cœur
du jeu.
C'est le cœur de l'expérience.
Qu'est-ce qu'on a ? On peut aller farfouiller les niveaux dans des listes, les nouveaux niveaux, les niveaux classement. Populaires, les niveaux prometteurs.
Prometteurs, c'est marrant ça, oui, prometteurs. Ouais. J'aime bien ça avec les notes.
On peut suivre des créateurs, ils apparaissent tous dans une seule liste, un peu comme un fil Twitter. On peut partager sur les réseaux sociaux des codes, on me donne un code dès qu'on partage un niveau et ce code là on peut
les enregistrer sur sa bécane aussi en local, télécharge, on les garde pour les rejouer, etc.
Exactement.
On les note, on met des appréciations, on peut mettre
il y a tout un système de
un réseau social un petit peu où on peut
mettre j'aime pas, mettre un commentaire, on peut placer ses commentaires dans le niveau pour dire attention, il y a un piège, machin. C'est plutôt rigolo et ça nous vient du Miiverse, ça c'est un reliquat du Miiverse.
C'est vrai que ça ressemble à ça avec les petits pictos, les machins.
Le mode le défi des 100 Mario a disparu au profit d'un Mario infini, d'un défi infini, donc tu peux il faut aller le plus loin possible avec un nombre de vies donné en fonction du niveau de difficulté, tu as plus ou moins de vies. Si tu le mode de difficulté le plus élevé, t'as 30 vies, mais c'est tellement dur à finir. Voilà. En super expert, je crois que j'ai fini que 3 niveaux.
Il y a les commentaires, c'est important, c'est les petits stickers qu'on peut coller en fait par rapport aux autres joueurs.
On peut les mettre où
attention,
on veut.
Attention, faites gaffe, il y a un piège ou it's a trap. Enfin, il y a des dessins aussi. Enfin voilà, on peut communiquer.
Absolument.
Comme ça,
et le mode multi. Grosso modo.
C'est la nouveauté aussi.
Affrontement et coopération. Donc coopération, vous êtes 4 et vous devez finir le niveau.
Ça, c'était pas du tout les précédents. C'était pas du tout.
Affrontement, c'est le premier qui finit le niveau, qui remporte des points. Il y a un classement, il y a un leaderboard. On avance. Et c'est là qu'on arrive au problème principal de Mario Maker, son online de manière générale et la façon dont il est géré. On va commencer par ce que on en a discuté avec Patrick.
On a discuté avant. Moi, ce qui m'a.
Donc Patrick, dis-moi ta mauvaise surprise.
La mauvaise surprise, c'est que pour accéder au cœur du jeu pour moi, c'est de pouvoir accéder à ces niveaux créés par les joueurs. Parce que moi,
tout le pain en ligne.
Je suis pas un créateur de niveaux. J'adore aller picorer des niveaux comme ça, droite à gauche, et explorer, etc. C'est que c'est payant. C'est-à-dire qu'il faut être abonné au Nintendo Online. Et c'était gratuit sur Wii U. C'est-à-dire que tu achetais ton jeu, tu te connectais gratos, c'est allé télécharger. Alors je sais que c'est autre époque. C'était...
Tous les jeux online de Nintendo à l'époque étaient gratuits.
Mais voilà, c'est notre époque, c'est notre génération, mais là, c'est vrai qu'il faut avoir, en fait, l'accès au contenu généré par les autres joueurs est conditionné par un abonnement payant à la formule Nintendo. Alors oui, je sais, l'abonnement n'est pas très onéreux, mais c'est le principe. C'est le principe, je trouvais que...
Il y a une version deluxe de Super Mario Maker 2 qui est
avec un nom, je crois,
de online.
Mais pour moi, c'était aussi, tu vois, il y avait un côté, ce jeu était immortel. Il était immortel par définition, c'est-à-dire que tu mettais ta galette, tu achetais ta galette, tu l'avais à vie, enfin à vie non, parce que c'est des serveurs, etc. Mais t'avais un côté un peu infini, c'était infini, tu pouvais tomber sur n'importe quoi plus tard, et là t'es sur un abonnement, c'est-à-dire que là si tu n'es pas abonné Nintendo Online, tu n'as accès qu'au contenu solo, à cette fameuse campagne qui est riche.
Ou à ce que t'auras créé toi.
Mais du coup t'as pas ce, pour moi c'est ce qui est magique, et je trouve que ce jeu est magique, on l'a déjà dit, mais le fait de pouvoir aller chercher comme ça des niveaux, tu as des découvertes, tu as un imaginaire, moi ça me rappelle cet âge d'or des années 80 où en quelques pixels, moi je me rappelle toujours de ma découverte de Jet Set Willy. Alors tout le monde n'est pas Matthew Smith, tout le monde n'est pas un créateur comme ça, mais je trouve qu'en notamment dans les looks années 80 des premiers Mario, il y a une magie quand tu découvres un univers comme ça, t'as des mondes entiers qui sont créés en quelques pixels. Et je trouve que quand tu rentres dans les meilleurs niveaux, sous ton axe sont moins bien, mais t'as des niveaux entiers
t'as
où t'as parfois une forme de narration, t'as vraiment cette sensation d'entrer dans un univers avec des codes, avec des... Moi vraiment je suis bluffé parfois par la mise en scène, par la création, et vraiment cette sensation de rentrer chez quelqu'un et de rentrer dans un univers, dans un monde à part. Et tu sens que t'as vraiment des créateurs qui arrivent à... T'es plus en train de jouer à un jeu Mario. Et c'est ça que je trouve que où tu as les codes de Mario, t'as les personnages, mais tu rentres chez quelqu'un, tu rentres dans un monde créé par un créateur. Et je trouve que ça, c'est vraiment précieux. C'est, pour moi, c'est le cœur de Mario Maker.
Ce que je trouve un peu choquant dans ce truc de limiter cet accès aux créations des autres par le online payant de la Switch, c'est qu'une création de quelqu'un dans Super Mario Maker 2, moi, je la considère comme une co-création.
Mais oui,
c'est-à-dire il y a quand même un vrai acte créatif de la part de la personne qui a créé le niveau. Effectivement, on peut partager les droits entre guillemets, parce qu'ils utilisent le matériel de Nintendo et tout ça, mais finalement c'est faire payer l'accès à
quelque chose produit par d'autres joueurs,
exactement.
Mais pour moi c'est même pas le plus choquant, parce que à la rigueur il y a un mode online, et à la rigueur Nintendo,
non mais le mode online c'est normal de le payer, enfin, ça me choque pas. Le jeu à plusieurs,
alors oui et non, parce que ça c'est toujours mon problème avec Nintendo à l'heure actuelle, c'est que Nintendo te fait payer un abonnement alors qu'ils ne payent aucun serveur pour leur jeu en ligne, c'est que du pair to pair, enfin du peer to peer, du pair en pair, je sais pas comment dire en français,
de joueur à joueur,
c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui héberge, donc grosso modo la connexion globale des quatre joueurs sera aussi performante que la moins bonne des quatre connexions qui sera en jeu. Ouais. Mais d'où tu nous fais payer un abonnement, Nintendo, pour ça? D'où tu nous fais payer un abonnement? Le online est une fois sur deux pas jouable. Ça rame, c'est pas bon. Et du coup, qu'à la rigueur, tu nous fais payer un truc, je veux bien, mais aligne les serveurs derrière. C'est pas possible. Ça me choque plus. Et à la rigueur...
Pour moi, ça, c'est presque un point technique qui peut être résolu. Enfin, il suffit que des serveurs soient... Ce qu'on disait avec Arwan...
Je t'assure que si...
C'est la propriété des niveaux qu'on
générait. Je préviens les auditeurs que j'ai perdu tout contre trop le son de
la télévision. Ah oui, il est en train de se tasser dans son fauteuil. mais c'est dommage parce que c'est un jeu que j'adore, moi je le trouve fabuleux. Encore une fois, c'est un outil de création formidable. Il est incroyable ce jeu.
Oui.
Mais justement, ça me frustre d'autant plus que l'accès à cette mine de créativité
Est-ce que Little Big Planet, je me souviens plus,
je me posais la question.
Est-ce que Little Big Planet n'est pas accessible qu'avec le PS Plus?
Je ne suis pas certain.
Il me semble, est-ce que Project Spark à l'époque n'était pas accessible qu'avec le Gold?
Et je pense que Dreams, ce sera le cas aussi.
Voilà.
Donc, ce sont peut-être les nouveaux schémas.
Encore une fois, je pense que personne ne serait choqué par ça si derrière Nintendo était irréprochable. Tu vois ce que je veux dire? Si Splatoon avait des serveurs dédiés, si Mario Kart avait des serveurs dédiés, si Mario Maker qui ne fonctionne pas.
C'est toujours pas le cas?
Non! Aucun des jeux n'a de serveur dédié. Nintendo arrive. Alors certes, te file des jeux NES qui leur coûtent plus rien, qu'ils ont rentabilisé un milliard de fois et ils te filent Tetris 99. Ouais. C'est sûr. Et ils te font quand même payer un DLC.
J'ai envie de dire, mais comme souvent avec Nintendo, tu dis ok, parce que derrière il y a le contenu, parce que derrière il est irrestible ce Mario Maker 2. Une fois que tu as mis le doigt dedans, t'as qu'une envie, c'est d'aller voir ce que les mecs vont créer.
Vous savez,
la communauté, elle est déjà folle. Le jeu, il est sorti il y a une semaine.
Absolument.
Et quand tu vois déjà les niveaux, le nombre de joueurs que tu vois, parce que tu as les compteurs, c'est fou déjà.
Là, à l'heure actuelle, le jeu est sorti il y a 6 jours.
Ouais.
Et je dois avoir 30 à 40 heures dessus. D'habitude, pour un science on joue, soit je finis le jeu, soit j'essaie de jouer au moins 6 heures au jeu pour me faire une bonne idée.
Ah, c'est vrai que t'es très sérieux, toi.
Mais là, j'ai 40 heures sur le jeu. 30-40 heures sur le jeu.
Mais oui, mais c'est un gouffre.
J'ai une question, Corentin. C'est que tu nous as fait donc un bilan assez posé, assez objectif de l'objet. J'ai quand même besoin, parce que t'as quand même un gros investissement sur Super Mario Maker, le premier. Et subjectivement, tu viens de nous donner un peu un indice avec ton nombre d'heures passées, mais qu'est-ce que t'as ressenti?
C'est super. Je retrouve le moment. En fait, moi, ma plus grosse frustration de Mario Maker 1, c'était que je pouvais pas l'emmener dans le métro pour faire mes niveaux. Ça prend un temps fou de faire des bons niveaux. Faire des bons niveaux, c'est... Enfin, moi, là, par exemple, j'ai fait un niveau, ça m'a pris tout mon dimanche. J'ai passé un dimanche entier à faire un niveau, tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis dimanche, c'est je me suis levé et j'ai fini vers 3-4 heures du matin mon niveau, quoi.
Donc, aller faire son niveau, il faut que tu aies ton code et tout ça.
Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que maintenant ça soit portable,
Ça facilite, ouais.
Les
tu peux presque sortir, te mettre au soleil. Peut-être pas trop au soleil, mais...
Non, mais je veux dire, maintenant, je peux utiliser mes temps morts de ma vie. C'est toujours pareil, c'est button switch, encore une fois. Mario Maker, button switch, mais c'est puissance 12. Tu vois ce que je veux dire? C'est immense. Mario Maker, le concept est suffisamment fort et suffisamment englobant et suffisamment performant pour ne pas se rater. Tu ne peux pas te rater avec un Mario Maker 2. Ici, ils ont apporté une telle quantité de contenu supplémentaire que c'est une bonne suite, une vraie bonne suite qui apporte énormément de nouveautés.
Qui vaut son numéro 2.
Qui vaut son 2. Il y a ce problème du online qu'on a discuté, toi et moi. À part ça... C'est parfait, il y a rien à dire.
Ouais, non, c'est...
À part ça.
Ça le... Et puis un autre point noir quand même qu'il faut souligner parce que il faut qu'on le dise, c'est qu'il n'y a plus la compatibilité Amiibo. Et ça c'est. Ah ça y est, d'accord, je vous ai perdu là.
C'est vrai. Allez. Patrick.
Mais non, mais c'est vrai, on pouvait tous les scanner sur le premier et tout ça.
Merci.
Ça pouvait presque justifier d'acheter toutes ces figurines.
Attends, Erwan, j'aimerais dire un truc d'abord. YWP. N78NHG. Voilà, c'est tout. Voilà.
Et accrochez-vous. Accrochez-vous. Parce que...
Et vous pouvez retrouver ce code sur le compte Twitter @cocobé.
Ce sera. Je vais le mettre en bio.
Voilà, c'est ça.
Dites pas ce que vous en pensez.
Allez, je prends Super Mario Maker 2 sur Switch. On termine très, très rapidement, Patrick. Hein, très rapidement. Une expérience VR que vous n'avez pas envie de faire.
Ah bah merci, dis donc.
Ça s'appelle Home Sweet Home. Alors maintenant, chers auditeurs, vous me dites sincèrement si, avec ce son-là, vous avez envie de mettre un casque de réalité virtuelle et de vous retrouver là,
où
se passe cette musique, là où se passe ce son que vous venez d'entendre. Non, vous n'avez pas envie, Patrick, lui,
alors,
l'a fait.
On est en juillet-août, hein, si je vous parle Thaïlande, vous pensez évidemment soleil, vacances. Bah non, moi je vais vous emmener dans les recoins les plus sombres de la Thaïlande, ou plutôt de ces légendes et de ces monstres, avec cette petite série B que plutôt sympa, moi, qui m'intéressait, parce qu'évidemment c'est un jeu jouable sur PS4 tradi, et puis qui a aussi une version VR. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une série bien ficelée, je trouve. Il y a des bons moments dedans. On incarne Tim. Alors, Tim, le problème de Tim, c'est qu'il a perdu sa femme et qu'il n'est pas bien du tout. Et il se réveille au début du jeu dans un endroit qu'il ne connaît pas, qui est plongé dans le noir, qui est super flippant. Et voilà, il va avancer dans cette histoire. On va revivre des choses et puis on va dérouler toute une histoire autour de ça. Alors les mécaniques de jeu, on est sur du walking simulator, on est sur du horreur infiltration. Ça résume bien le truc, c'est-à-dire que t'as pas d'armes, c'est-à-dire que t'es plutôt à te planquer tout le temps, à essayer de te dissimuler, à éviter des monstres. T'as pas d'armes, donc faut vraiment jouer avec l'environnement. Et alors moi, pour tout vous dire, je l'ai commencé sur le téléviseur. Donc là, je faisais un peu le bonhomme, genre mais il fait pas trop peur en fait. Alors parce que très vite le jeu, dès les premières minutes, tu comprends assez vite que t'es sur un schéma que tu peux ne pas aimer. C'est le côté Die and Retry, c'est-à-dire que t'as une sorte de croque-mitaine qui est assez flippant quand même. Hein. C'est une jeune nana genre look zombie et que tu entends tout de suite parce qu'elle se balade avec un cutter. Et t'entends le bruit du cutter clac 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 clac.
Tu l'entends.
Donc voilà, ça pose tout de suite l'ambiance. Et
Elle veut faire du crafting, un petit.
Bricolage. Alors, en gros, il y a deux phases, moi, qui m'ont marqué dans ce jeu. C'est ça. C'est-à-dire que là, vraiment, alors là, tu retrouves des codes de Alien Isolation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Alien Isolation. Ces moments où tu avais l'alien et où tu devais te cacher, l'éviter. Tu devais reconnaître un peu son cheminement, comment il se baladait. Et là, tu as ça et tu as ces mêmes séquences. Tu te caches comme tu peux dans un placard où tu as juste ta vue. Alors, évidemment, que la VR, ça prend une proportion. Tu dois éviter absolument de tomber dessus parce qu'elle te plante évidemment à coup de cutter et ça se passe assez mal. Ça, j'ai trouvé que c'était assez prenant. Puis il y a d'autres passages où tu as des monstres. Ça fait partie de cette imagerie a priori thaïlandaise de monstruosité avec des monstres gigantesques où tu te retrouves avec des séquences de où tu dois te cacher de son point de vue. Tu as une sorte de mirador comme ça qui te regarde. Moi, ça m'a rappelé Sentinelle, un jeu des années 80. Je ne sais pas si vous avez connu. Là, je vous perds. C'est le moment où je vous perds, évidemment. Où tu devais aussi, comme ça, te dissimuler du point de vue d'une sentinelle. Tu retrouves ça et tu dois vraiment te cacher. Tu es au sol, tu te planques.
Mais il n'était pas en haut d'une montagne,
si, c'est
Sentinelle.
Ça. Exactement.
Ah, mais oui, bah
exactement.
Oui, tu vois,
exactement. Ah, bah, c'est un jeu mythique qui avait été repris après dans les années 90.
Je me rappelle la série
de John Carpenter.
La Sentinelle.
Non.
Sur M6.
C'est pas samedi. C'est samedi série.
Ah non, on va dire. il
la trilogie, la trilogie du samedi.
Ses 500 ont été démultipliés.
C'était la trilogie du samedi.
Le Sentinelle, je crois que c'était même la première.
On va divaguer,
hein.
Les amis, là, on va divaguer. Donc, bref.
Avec le clown.
Donc, alors, ces moments plutôt stressants qui sont, pareil, c'est plutôt scripté, mais ça fait le job, surtout quand tu mets le casque. Enfin, le jeu, moi, je l'ai commencé sans, et bon, voilà. Et quand tu mets le casque, tout prend une proportion. Il est symptomatique pour moi d'un jeu assez lambda quand il joue à l'écran et qui prend vraiment, tu vois, les échelles sur ces monstres gigantesques au casque, c'est assez hallucinant. Pour moi, le jeu, il y a une réussite vraiment qui m'a marqué, c'est que tu fais des allers-retours et tu revis dans le... À un moment, tu te retrouves dans l'appartement de ce couple qui a toute une histoire avec cette fille disparue. Et pour moi, il a réussi. Il y a un passage où tu es dans cet appartement, tu te retrouves dans un lieu connu, entre guillemets, tu te retrouves dedans. Et il réussit ce qui, pour moi, peut vraiment être les meilleurs moments de VR. C'est cette sorte de théâtralité que tu peux recréer. Toi, tu es un acteur, tu te retrouves dans un endroit finalement fini, fermé, un appartement, et il se passe des choses autour de toi dans un lieu fermé. Et là, la VR, je trouve qu'elle prend un sens absolument hallucinant où tu es dans un appartement, tu as une porte qui claque, tu te retournes, la porte s'ouvre, tu as des objets qui bougent derrière ton dos, tu montes à l'étage, il se passe des trucs au rez-de-chaussée. Cette unité de lieu, moi je pense vraiment qu'il y a des choses à creuser dans ce sens avec un endroit où toi tu es comme un acteur sur scène, il se passe des choses autour de toi. Et là, je trouve que le jeu, c'est un passage. Encore une fois, c'est pas un grand jeu, mais il arrive, je trouve qu'il ouvre des portes, notamment sur ce passage-là, sur un endroit, et c'est là où la VR se transcende. C'est où on n'est plus dans les sbrouffes. Je trouve qu'on est quand même à quelques années maintenant de la VR actuelle, et je pense qu'on arrive sur ces moments où on comprend que cette réalité virtuelle, elle prend vraiment une dimension quand tu te trouves finalement dans des mises en scène plus posées, où les choses qui arrivent autour de toi jouent justement sur les codes de la mise en scène, avec des bruits, des environnements, tu vois, qui t'entourent. Et toi, ton positionnement, presque, encore une fois, comme dans une pièce de théâtre. Et là, ce passage-là est vraiment terrifiant. Parce que tu te retrouves, tu y crois. C'est-à-dire que t'es plus dans du grand guignolesque avec, tu vois, un couloir avec des zombies dans tous les sens. Non, tu es dans un appartement, les portes qui claquent, un objet à 2 mètres sur ta gauche qui tombe.
Je suis intéressé, mais je n'ai vraiment toujours pas envie d'y être.
bon, en tout cas, voilà, c'est pas un grand jeu, mais c'est une petite flippette, une trentaine d'euros. 15-20 aurait été mieux. Je pense que peut-être attends, peut-être une promo. C'est un chapitre, premier chapitre, il y aura des suites. A priori, c'est une anthologie qui
une
se prépare.
Une fois que tu as payé, tu as tous les chapitres ?
Non, a priori, c'est un premier chapitre.
Ah oui, non, voilà. C'est cher.
Donc, c'est pour ça, je trouve que 30, bon, voilà, donc à voir. Bon, si vous avez fait Resident, on attend aussi le grand frisson hein, sur PSVR. Donc, voilà.
Merci. Donc, comme Sweet Home sur PS4, avant la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, je voudrais faire une petite série de remerciements pour cette saison 12, notamment remercier le plus chaleureusement du monde Binge Audio. On a passé cette année en leur compagnie. L'année prochaine, nous ne serons plus dans le catalogue Binge. C'était vraiment, on a été super fiers d'être avec eux, d'être dans leur catalogue, d'être entouré de magnifique podcast avec une équipe Binge qui a été vraiment aux petits oignons, qui s'est super bien occupée de Silence on Joue, et c'était vraiment un plaisir. Alors j'ai remercié évidemment Solène Moulin qui est à la réal aujourd'hui et qui a été à la réal de plein d'épisodes cette saison, Quentin Bresson qui a fait aussi qui a réalisé beaucoup d'épisodes, Jules Gélaoui qui était là en début de saison, Thomas Pied qui a réalisé quelques épisodes. Je voulais remercier à la production parce que je nomme pas à chaque fois tous les gens qui bossent à Binge Audio, mais à la production Juliette Livartowski, que vous connaissez sûrement avec le podcast à dérouler, mais qui est à la production de Binge, à l'édition Camille Regache et Diane Jean, qui s'occupe donc de toute l'édition et de la mise en ligne des podcasts et tout ça, la direction de la rédaction de Binge Audio, David Carzon, que je connaissais d'une ancienne vie à Libération, mais qui est toujours aussi exceptionnel. Et j'en profite aussi, ils n'ont pas eu de lien particulier avec Silence on Joue, mais ça a toujours été un plaisir de discuter avec eux, Thomas Rozek, Victoire Toyon, Joël Ronez. Voilà, donc ça a été un vrai plaisir de les côtoyer pendant une année. Nos chemins vont se séparer parce que les chemins ils se séparent parfois. Et en tout cas, ça a été un vrai honneur d'être là et d'être entouré de tous ces podcasts. Je le répéterai jamais assez, j'en ai parlé dans chaque presse, dans beaucoup d'émissions, mais les podcasts de binge audio, vous pouvez piocher dans le catalogue à l'aveugle. Je voulais aussi remercier tous les chroniqueurs qui ont été là cette saison. Bah, évidemment, donc, Corentin et Patrick, vous êtes là. Et vous avez été là pratiquement tout le temps. Il y a aussi et eu, bien sûr, Camille Suard, Élodie Druard, Franz Durupt, Marius Chapuis, Clément Appap.
Clément Appap, non.
Clément Appap, si, je te jure, il était là.
Il est revenu.
C'est vrai que vous vous évitez, c'est insupportable. Je suis sûr que les auditeurs, ils en peuvent
plus. Ils en peuvent plus. Erwan Iguinen, Kevin Sicurel, qui a fait aussi son arrivée avec des émissions mémorables. Camille Gévaudan, qui était là pour parler de Pokémon Go et qui sera là la saison prochaine pour parler de Pokémon épée et bouclier. Mais qui sait, elle reviendra aussi peut-être, pourquoi pas, pour d'autres choses, on ne sait pas. Bien sûr, remercier encore une fois Jérémy Kletskin pour la qualité, la régularité et la pertinence de toutes ces chroniques jeux de société. Voilà, c'est pour tous les remerciements de cette formidable saison 12. C'est encore dingue de trouver après 12 ans.
Et merci à toi, Erwan, aussi.
Ah oui,
ah oui, merci, Erwan. Merci.
Moi, je dis les merci.
Souvent, celui qui dit les merci, il n'a pas de remerciement.
C'est un peu délicat, mais nous, on te le dit.
Mais c'est toujours assez fou, voilà, après 12 saisons passées maintenant.
Cette rentrée 2007 où fébrilement nous avons
D'être toujours super content de faire cette émission. Merci évidemment aux auditeurs, plus particulièrement aux membres du forum officiel de Science
Toujours
Joue,
bien vieillant.
Qui est toujours un endroit génial pour discuter. À tous les auditeurs qui commentent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube aussi, il y en a aussi qui commentent là-bas. Et puis pour ceux qui commentent pas et que on voit débarquer, je vous écoute depuis 12 ans. T'es là, waouh.
Pour ceux qui nous envoient des menaces de mort par courrier.
Et voilà, donc c'est plein de remerciements, toujours très sincères. Pour terminer cette saison, la question à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Alors, je voulais vous parler du nouveau Chucky qui vient de sortir, mais en fait, non, je crois que c'est tellement pas bien. En fait, c'est un sous Black Mirror et c'est tellement moins bon que le film de Tom Holland de 88 que je vous recommande, qui lui est vraiment, vraiment bien meilleur. Là, ça vaut pas le coup. Allez, je vous parlais d'un film d'été. Alors, moi, c'est une tradition. Tous les étés, les beaux jours arrivent. Qu'est-ce que je fais? Je me refais l'intégrale des Dents de la Mer, en fait. Parce que ce que je trouve fabuleux, c'est qu'en quatre films, on a à peu près un diaporama du meilleur.
Quatre films.
Oui, quatre films canoniques.
Quatre films.
Oui, je sais. Mais justement, avec quatre films, tu vois le meilleur comme le pire de ce qu'a pu faire le Hollywood, en fait, cinéma. Et du coup, alors évidemment, je vais pas revenir sur les qualités du premier, qui est un chef-d'œuvre indéboulonnable et que je redécouvre. À chaque fois que je le vois, ce film, je trouve qu'il a pas pris une ride, il est incroyable. Moi, mon coup de cœur, c'est pas pour le 3 en 3D, bien que je l'aime beaucoup aussi. Non, il est fabuleux, il est ressorti en Blu-ray 3D, en fait, je le recommande, il est fabuleux.
Le 3 en 3D.
Mais bien sûr, et avec les effets, en plus, il est très très bien. Non, mais c'est le deuxième, qui est souvent mal vu, de Jano Swartz, que moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça a été une suite qui a souvent été un peu, comment dire, critiqué. Et moi, je trouve qu'il développe très très bien le personnage de Brody, etc. Moi, j'aime bien le deuxième. Je trouve que le Jaws 2 ou les Dents de la Mer...
Deuxième partie,
parce que...
Ils l'ont appelé
sinon,
comme ça.
Ça posait problème. Moi, c'est un titre... C'est vraiment un des films que j'aime beaucoup de la série. Je trouve qu'il fait une vraie bonne suite à ce chef-d'œuvre atemporel du...
Ils auraient pu quand même assumer le Dents de la Mer 2, d'autant que Saw a assumé son sixième épisode.
Saucisse.
Et ça, c'est quand
même... Ils l'ont sorti en saucisse.
Ah, ils l'ont sorti en saucisse.
Il s'appelle
Saucisse.
Carrément.
C'est drôle.
Corentin.
Alors moi, depuis qu'il n'y a plus les croissants, j'ai plus de temps. Mais en fait, j'ai pas plus de temps.
T'es sur Mario Maker.
Plein de choses à préparer. Bon, déjà, il y a Mario Maker qui mange une
tartine.
Mais surtout, voilà, je prépare un gros projet en ce qui me concerne avec ma compagne.
Bah oui. Il faut l'annoncer parce qu'on l'a toujours pas dit. Mais Corentin, tu ne seras pas là la saison prochaine.
On va essayer de rester fort.
Je pense qu'un pilier suffit, tu sais.
Oh non.
Mais oui, je serai pas la saison prochaine pour cause de visa vacances travail au Japon, a priori, pendant un an, a priori, je pars un an au Japon.
Il va nous plomber l'ambiance en fin d'émission.
Mais t'es ouf, moi je suis trop content de partir au Japon. Toi, t'es plombé, moi je vis ma belle vie.
Il est un peu égoïste, hein,
un petit peu égoïste, c'est vrai. Non,
mais t'as bien raison, le Japon.
C'est vrai que c'est beaucoup de démarches, en fait. Des démarches purement administratives, demander le visa, vacances travail. Donc là, je suis en train de remplir des lettres de motivation cheloues sur la base de depuis quand.
Mais ça vaut le coup.
bah oui, ça vaut le coup. Quelle expérience. Mais même, il y a d'autres choses. Enfin, faut quand même gérer l'appartement. Qu'est-ce qu'on en fait pendant un an, tout ça. Donc, on vient d'avoir l'accord de la propriétaire pour sous-louer. Donc, on va, faut trouver des gens pour sous-louer. Donc, je passe une petite annonce. Oh, si vous êtes intéressé pour louer mon appart pendant un an à Paris, n'hésitez pas dire à me contacter. Mes DM sont ouverts. Et sinon, bah, écoute, ça
va. Il y a code promo pour les.
Absolument. Alors, vous avez seulement si vous avez fini mon niveau Mario Maker, par contre.
Oh là, bah, accrochez-vous, c'est pas gagné.
Vous devez montrer votre suite. Mais voilà, c'est beaucoup de problèmes. C'est aussi pour ça que j'apprends le japonais depuis un moment, d'ailleurs. Voilà, donc c'est.
Tu nous en avais parlé.
C'est beaucoup de.
Tu nous feras un débrief complet au retour.
Oui,
évidemment.
Tout à fait. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de participer. Donc, à 4 ans de Silence on joue, je vais les regarder. Hein.
Yes. Les croissants, tout ça, quand on est venu.
Ouais, je sais plus pour quel jeu je suis arrivé, mais je me souviens que c'était Undertale pas longtemps après. et du coup, ouais. C'est bien de commencer par Undertale et finir par Mario Maker. Je trouve que c'est des bons jeux pour commencer.
J'avais tout prévu depuis longtemps, en fait.
Corentin, je te signale que tu restes un an au Japon. Ouais. La saison 14.
C'est quand ton ticket de retour qu'on déjà.
Je sais pas encore, ça fait partie des choses qu'il faut que je gère. Ça, acheter un billet avec date modifiable. Voilà. Mais je vais retourner à ma place d'auditeur pour quelques temps. Et c'est vrai que Silence on joue, j'avais commencé en tant qu'auditeur quand j'étais étudiant. Et jamais il me serait venu à l'idée de participer de manière aussi régulière à cette émission. Et du coup, ça m'a fait bien plaisir là, pendant 4 ans de venir très régulièrement. Et. Eh ben, on se donne rendez-vous après le Japon.
Mais ouais, saison 14, je te dis. C'est la porte sera toujours ouverte, quoi, Quentin.
C'est clair. Je ferai mon Clément à pape. Et on se croise. Et je raterai Patrick à chaque. Et je raterai Patrick à chaque émission. En fait, Patrick assimile les chroniqueurs que vous voyez plus. En fait, c'est Patrick qui les assimile et après il peut les ressortir quand il veut.
La gorgité.
J'allais parler d'une série Netflix, mais je sais pas. Enfin, non, mais j'ai commencé à regarder Family Business. Il y a quand même une série Netflix made
série
in France
française.
Avec Jonathan Cohen,
Serge Le Mito là.
Il est clairement sur sa lignée de Serge Le Mito et c'est toujours un vrai plaisir. Mais il y a Gérard Darmon, il y a d'autres, il y a Julia Platon aussi et franchement c'est plutôt drôle, c'est vraiment bien foutu, les acteurs sont bons, la réal est top, la narration est bien, c'est 6 épisodes je crois.
C'est court, ouais, c'est peut-être assez, mais c'est tenté du coup.
Et c'est vraiment très bien, bon, donc évidemment c'est une famille, ils décident la boucherie familiale, ils veulent la transformer, ils ont l'annonce d'une régularisation, d'une légalisation prochaine du cannabis, donc ils veulent transformer un peu leur business et c'est assez drôle. C'est plutôt pas mal fait en tout cas.
La bande-annonce m'avait donné envie, ouais. Donc je vais peut-être me laisser tenter.
Voilà, encore une fois, merci à Solène hein, pour avoir réalisé cet épisode et merci à tous et puis on se retrouve pour la saison 13 de Silence on joue. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.